Tout à l'heure à 21h30 en direct sur Radio Courtoisie, le Libre Journal de la Nuit dirigé par Paul-Marie Couteau. Et puis tout de suite et en direct, le Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h. Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel.
Et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui, dirigé par Serge de Bekech, assisté de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 21 juin, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résisterons-nous?
Je ne sais pas à quoi, mais ça me paraît difficile.
Bonsoir Serge.
Bonsoir François Robot. Nous sommes tristement seuls. Alors,
mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils viennent
Goffman. Pas Goffman joue, c'est Victoria. Il est malade.
Il est malade, pauvre Goffman.
Surchargé de travail et malade. Figurez-vous, il attrape une angine, le pauvre.
Oh là là, c'est psychosomatique, c'est parce qu'il travaille trop.
Le marquis. Alors là, le marquis a dit.
Il voyage.
Ah oui, voyage.
Mais tous ces gens ont goûté de la vodka, si je me souviens bien la dernière fois.
Ouais. Mais non, mais
peut-être
non.
C'est ça, non.
La vodka, ça entretient. Ça tue le verre.
Jean-Pierre Rondeau, je l'attends.
Je l'attends.
Mais la dernière fois, on l'attendait aussi, ça devait devenir d'habitude. Hein.
Non, ça, il faudra. Je vais sévir, d'ailleurs. Mon invité de la première partie, je l'attends aussi. Alors lui, je vais lui tirer les oreilles parce que. Il sait mieux que quiconque qu'il ne sied pas d'être en retard, puisque c'est mon excellent camarade Henri de Lesquin.
Ah, Henri de Lesquin, effectivement.
Président du Club de l'Horloge.
Oui. Et qui a une certaine importance à Radio Courtoisie quand même.
Oui, c'est pas pour ça que je l'ai invité, c'est parce que je l'ai invité comme président du Club de l'Horloge.
Bien sûr.
Le rôle qu'il joue dans cette radio, là, ça ne le concerne pas ce soir.
Oui. Non, c'est pas pour ce qu'il est là, d'accord. Oui.
Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mmh.
Ensuite, il y aura le père Argouache et Benoît Mancheron. Et puis, Jean-Paul Leperlier.
Vous avez un grand signe à l'horizon.
Ah, et on a déjà un appel téléphonique?
Le marquis, j'ai cru.
Le marquis. Ah, le marquis en personne. Alors voilà, le marquis. Donc, je prends mes oreilles électroniques.
En téléphone.
Je vais y arriver, oui, voilà. Ah, allô, Marquis.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Bien, et vous?
Ben, je vais bien, je suis désolé d'apprendre que Goff est pas bien, mais je vous rappelle que je vous avais signalé que je serais absent ce soir parce que j'ai deux mondanités qui s'emboîtent, si j'ose dire, l'une dans l'autre, et que je ne peux pas être partout. Mais on va considérer que je suis en reportage pour le journal.
Voilà, considérant.
Voilà.
Non, mais vous savez que moi, mon pauvre cerveau délavé ne retient pas les messages plus de deux minutes.
Alors, non, je crois que c'est pas ça, j'ai un tout petit peu de désordre sur le bureau.
Non, qui vous permet de dire une chose pareille?
Bah, je sais.
Alors donc, on ne vous a pas ce soir. Bah, écoutez, profitez bien de vos mondanités emboîtées.
Voilà, je vais tout vous dire. Il y a un grand récital de piano à l'ambassade du Canada. Et après, on fête l'anniversaire, je dirais pas le numéro, du docteur Oudray, où tout arrive à s'écraser.
Ah, le docteur Oudray, le maigrisseur.
Le maigrisseur, qui va faire grossir beaucoup de monde ce soir en recevant d'une façon somptueuse.
C'est assez mariole son truc d'air, effectivement, parce qu'il fait des réceptions somptueuses.
On mange bien.
Auxquelles je m'étais invité, mais par vous, je le sais. où on s'empiffre, et puis ensuite, les gens reviennent le voir pour se faire maigrir.
Non, mais c'est très
ou achètent ses bouquins pour savoir comment maigrir.
Voilà, c'est très habile son système.
Ouais.
Donc, Serge, pardonnez-moi, mais je vous avais prévenu, je ne veux pas insister, et donc je suis en reportage.
Qu'est-ce que ça fait si vous vouliez insister, alors?
N'est-ce pas? De toute façon, je vous retrouve demain pour le bouclage.
Et nous nous retrouvons demain pour le bouclage.
Voilà.
Merci, Marquis, et bonne soirée.
Merci beaucoup.
À
bonne
bientôt.
Émission, au revoir.
Voilà, bon, comme ça, au moins, on sait qu'il n'est pas perdu, il n'a pas été enlevé, tout va bien. Alors, nous allons faire un petit tour de l'actualité. De l'actualité politique, et notamment du nouveau gouvernement. C'est-à-dire que Sarkozy nous avait promis un gouvernement de rupture. Il tient parole, parce que moins d'un mois après le premier gouvernement, il y en a déjà un deuxième. À ce rythme-là, il veut finir par battre la Troisième République. Alors, on me dit que j'ai reçu plusieurs lettres me reprochant d'avoir trop rapidement manifesté mon hostilité au nouveau pouvoir. Et d'abord, mon hostilité au nouveau pouvoir n'est pas nouvelle, ça fait maintenant 50 ans que ça dure, voire plus. Je vois pas pourquoi j'aurais changé de position, étant donné que je ne change pas. Mais en plus, là, me reprocher d'aller trop vite, c'est quand même extraordinaire, parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui prend position sur des projets. C'est trop facile de dire après, d'attendre, puis après de dire ah ben non, c'est raté. Moi, je vous dis, je dis, Sarkozy, ça sera une catastrophe. Je le maintiens. On peut penser le contraire, mais je le maintiens. Et là, il est au pouvoir depuis combien? Un mois à peu près, non?
Oui, à peu près. Oui.
Un mois. Alors, et il a été élu. Ça a été dit et redit. Très largement par les électeurs naturels du Front National, qui se sont débandés du Front pour aller au secours de Sarkozy, attirés par les promesses de Sarkozy, par le ton de Sarkozy, par le discours de Sarkozy, qui parlait de la France, qui parlait de rigueur, qui parlait de travail, qui parlait de famille, qui parlait, pour un peu, il avait parlé de patrie.
qui disait qu'on allait rompre avec 68.
Qu'on allait rompre avec 68.
On allait rendre alors, Victor Hugo aux enfants des écoles.
Voilà, je voudrais me tourner vers mes amis électeurs qui ont fait ça, ont voté Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de la présence dans ce nouveau gouvernement d'un Bockel socialiste de plus? Vous avez voté pour avoir un socialiste de plus au gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de la présence de Madame Ramayadé, qui est certainement ravissante, mais qui est faite pour être ministre, comme moi je suis fait pour être acrobate de cirque? Elle est très jolie, elle est arrivée à la première soirée télévision avec un pantalon trop court vers le haut et une veste trop courte vers le bas, ce qui fait qu'on voyait son ventrounet. Ravissante, je veux dire, ravissante, mais... Bah, le mot ventrounet ravissant, c'est pas spécialement ce qu'on attend d'une ministresse. Cela dit, elle est très 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 gentille, très jolie, enfin pour ceux qui aiment ça, et elle est mariée avec un socialiste. Le pouvoir actuel, il épouse ou des socialistes ou des journalistes. Ils sont tous mariés avec des journalistes, tous et toutes, si j'ose dire, ou des socialistes. Ce qui montre quand même qu'on est dans un milieu un petit peu mélangé, quoi. C'est la famille Tuyot de poil. Hein, ça ressemble à ça.
C'est l'ouverture.
C'est l'ouverture. Vous avez, je demande aux gens, est-ce que vous avez vraiment voté pour avoir Madame Valérie Létard, Dieu merci, c'est pour les Létards, à la solidarité. Alors, elle est secrétaire d'État à la solidarité. Je vais vous donner un exemple de solidarité. Elle a soutenu Bayrou jusqu'au lendemain du premier tour de la présidentielle et avant le deuxième tour, elle a basculé dans le camp de Sarkozy. Donc, elle est solidaire. C'est comme ces CRS nageurs sauveteurs qui ne plongent que, qui ne se vont sur la plage que quand il y a personne qui se baigne. Comme ça, ils sont tranquilles, ils ne sont pas obligés de se mouiller pour sauver les noyés.
L'ouverture, vous dis-je.
L'ouverture. Il y en a, alors, il nous avait promis la rupture, Sarkozy. Moyennant quoi, on se retrouve avec une ministresse ou une sous-ministresse qui s'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, il y a des familles de confiseurs, il y a des familles d'épiciers, il y a des familles de médecins, mais il y a des familles de politiciens. Alors, l'arrière-grand-père de Nathalie, il était sénateur SFIO. Son grand-père était résistant gaulliste, un métier comme un autre. D'ailleurs, je me demande comment on peut être résistant sans être gaulliste ou gaulliste sans être résistant. C'est vraiment, c'est pas la peine, quoi. Hein? Résistant gaulliste, c'est ce qu'on appelle un pléonasme, voire une redondance. Son père était ingénieur des ponts et chaussées, mais il était conseiller général des Hauts-de-Seine et maire UMP de Sèvres. Il est même encore, d'ailleurs. Et elle est polytechnicienne et... Ah non, elle n'est pas énarque, c'est curieux ça. Elle est de l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts.
Bon, alors moi, génie au gouvernement.
Mais j'aime beaucoup l'idée du génie rural, ça m'a toujours beaucoup plu parce que ça me fait toujours penser à ces petits lutins qu'il y a dans les forêts. Ça doit vous plaire ça, Jean-Paul, non?
Oui, tout à fait, oui, je vois très bien l'attaque là parce que vous me voyez païen avec des petits lutins.
Mais moi, ça, j'y crois. Je vois pas pourquoi les païens y croiraient pas. Des petits lutins, des petites fées, des elfes qui se promènent sur la... Donc, voilà. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est ministre des elfes. Et puis alors, il y a quand même quelqu'un dont je suis sûr que la plupart des électeurs habituels de Le Pen qui ont voté Sarkozy seront ravis de l'avoir arrivé aux affaires, c'est Madame Fadela Amara, qui s'appelle en réalité Fahida Amara. D'ailleurs, je suis pas méchant de nature, mais quand on s'appelle Fahida, de se faire appeler Fadela, entre nous, je vois pas l'avantage. Hein, autant rester au point où on en est au départ. Parce qu'elle se serait fait appeler, je sais pas, Simone ou Berthe, il y avait une explication, mais... Bon, bref. Alors, cette dame, elle était, il y a pas encore très longtemps... Elle était anti-sarkozyste à fond. Elle était socialiste. Elle est même encore conseiller municipal socialiste. Alors, là, ça pose quand même un problème assez intéressant. C'est-à-dire qu'elle est conseiller municipal socialiste de Clermont-Ferrand et en même temps, elle est ministre sarkozyen à Paris. Ça complique pas mal l'existence, ce truc-là. Je ne sais pas comment elle va faire pour s'en tirer. Mais c'est surtout la fondatrice d'un mouvement qui est très, très intéressant à analyser parce que c'est un groupe qui s'appelle Ni pute, ni soumise. Or, j'ai réfléchi à ça, parce que depuis le début de cette histoire, depuis longtemps, cette appellation m'intéresse, parce que d'abord, elle est d'une vulgarité effrayante, elle est insultante pour les femmes, parce que ça voudrait dire en quelque sorte que les femmes n'ont que le choix d'être des putes ou soumises, prostituées ou soumises. Et puis j'ai bien réfléchi, et je me suis dit, mais au fond, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est sur le plan... du signe, comme on dit maintenant, civilisationnel.
Oh!
C'est bien ça.
Oh,
hein?
L'horreur.
Mais je mets pas de fric parce que c'est même pas de l'anglais.
Ah non, c'est pas de l'anglais. À peine.
C'est quand même tout à fait significatif. Parce qu'en France, dans la tradition française, une prostituée, c'est une fille soumise. Quand vous dites que je ne suis ni pute ni soumise, ça suppose que vous n'êtes ni une chose ni son contraire. Donc ça veut dire que pour la civilisation dont se réclame Madame Fadela Amara, une femme qui n'est pas soumise, c'est une pute. Et une pute, c'est une femme qui n'est pas une femme soumise, ça n'est pas une pute. Et ça, c'est absolument typique de la pensée musulmane. C'est-à-dire la femme qui est à la maison, hein, voilée, avec des gants en filocèle, un grillage devant le PIF et qui sort accompagné par ses deux frères pour aller au supermarché à condition qu'elle porte des lunettes noires et qu'elle regarde par terre, celle-là, elle est soumise. C'est donc pas une pute. Mais une fille qui dit, bon, on est en France, je suis française parce que je suis née en France et que ces abrutis de Français, ils ont fait un système qui s'appelle le droit du sol, qui veut qu'une vache née dans une écurie s'appelle cheval, eh bien, donc je vais vivre comme une Française. C'est-à-dire, je vais porter des pantalons, des jupes courtes, des petits justes au corps, je vais me coiffer, je vais me maquiller. Alors elle, c'est une pute, parce qu'elle n'est pas soumise. Et je pose la question, comment voulez-vous mélanger des gens qui ont, sur le plan culturel, sur le plan des mœurs, sur le plan des traditions, sur le plan de la coutume, sur le plan des références, des différences aussi inconciliables? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la tradition française qui est le respect de la femme et de considérer qu'une femme est un être libre, qui a des droits, qui n'est pas obligé de se soumettre à l'homme, auquel cas, si elle se soumet à l'homme, elle devient effectivement une pute, parce qu'elle se soumet à son mec. Et d'autre part, des gens qui appartiennent à une civilisation qui considèrent que toute femme qui refuse d'être soumise, asservie à l'homme, est forcément une pute. C'est nommissible. Et ça conduit forcément à des catastrophes. Alors les catastrophes, qu'est-ce que c'est? Ben, on les voit quand on va dans le 80, dans le 9-3. Tiens, l'autre jour, j'ai appris qu'il y avait un journal qui s'appelait le magazine Respect. Alors j'ai dit à Goffman, nous on va faire l'hebdomadaire nique ta mère, parce qu'il faut quand même compléter le... Ça aussi c'est quand même un signe, hein. Une civilisation, enfin une prétendue civilisation, dans laquelle l'injure c'est nique ta mère, c'est quand même une civilisation qui est assez peu sympathique. Je sais pas, nous on dit pas ça en France. On a, ça, dans la tradition française, ça ne nous a jamais effleuré une idée pareille, jamais. Eh bien, dans la tradition de ces gens-là, c'est l'injure, l'en courante. Quoi.
Oui, elle est courante, c'est la moins extrême, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'ose pas répéter, qui sont qu'on peut pas penser dans notre civilisation.
Avec les ordres de ta grand-mère, je monte au grenier,
niquer ta sœur. Il y a les morts, il y a tout, enfin vraiment, voilà, tout passe par là. Et puis aussi, tout passe toujours par nique, par le sexe,
voilà,
etc.
C'est une question de civilisation. Alors moi, je ne critique pas, attention, oh là là, je suis un homme libère, comme dirait mon ami Anthony, et je...
Hein, rien.
J'ai pas dit libéral, j'ai dit libère, oui, au sens romain du terme.
C'est
et donc,
ça qui me fait tout
je respecte toutes les formes de civilisation, y compris l'anthropophagie, à condition de ne pas figurer au menu principal. Mais je dois dire que je suis partisan de l'adéquation des territoires et des civilisations. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, je vois la peine d'aller.
Une autre observation que je Jean-Pierre Rondeau, que je me fais, c'est que, en fait, parmi les candidats, les ministres ou secrétaires d'État issus de l'immigration, les trois sont des femmes. Je me demande si quelque part il n'y a pas une espèce d'insulte fait aux hommes finalement de l'immigration, puisque on a été obligé d'aller chercher des femmes, et il n'y a pas un seul homme.
Non, c'est pas ça. La vérité, c'est que Sarkozy, qui est pas complètement idiot, il se dit puisqu'il faut s'emmerder à donner des signes, autant regrouper. Hein, on va économiser quand même. Donc on prend des femmes, on en profite pour prendre des, comment vous dites, minorités visibles.
Visibles, oui, deux fois visibles. Oui.
Voilà, c'est tout. Bon. Maintenant, il y a les gens sérieux dans l'histoire. Alors, il y a l'affaire de la défaite de Juppé. Et je vais en profiter pendant que le président du club de l'horloge n'est pas arrivé pour dire ce que je pense de tout ça. Parce que je veux dire du mal des énarques, hein. Il faut se manier. En fait, Juppé a été battu par sa formation énarchique. Il savait, Madame Ségolène Royal avait fait 54% et des poussières dans son coin. Donc il avait de fortes chances d'être battu. Mais lui, comme c'est un énarque et qu'il est très très intelligent, certainement beaucoup plus intelligent que l'immense majorité des Français, il a fait un petit calcul et s'est dit, mais c'est pas moi qui ai été battu à Bordeaux. La preuve, d'ailleurs, c'est que quand il s'est présenté au municipal, il a fait un score. Et il a fait mieux que Ségolène. Alors il s'est dit, c'est le projet Sarkozy qui a été battu. Enfin, c'est Sarkozy, c'est la droite qui a été battue. Mais moi, je vais arriver avec ma victoire au municipal, je suis sûr, de battre Madame Delaunay, qui n'est qu'un petit médecin de quartier, enfin un petit médecin d'hôpital en plus, mais avec une spécialité qui permet pas de fréquenter beaucoup de monde, parce qu'elle est, je crois qu'elle est cancérologue spécialisée dans les affections de la peau. Donc, c'est quand même un créneau assez étroit. C'est pas comme le médecin qui se balade, qui va voir les gens et qui peut faire sa campagne. Et donc, il a dit, ils ne me battront pas. Ben si, ils l'ont battu, parce qu'il n'avait pas réfléchi à une chose, c'est que quand il se présentait au municipal, il n'était pas encore ministre d'État, porteur du projet Sarkozy, mais quand il se présente comme député, il est porteur du projet Sarkozy, il est ministre d'État, et accessoirement, ils lui ont collé, histoire de lui rendre service, son ami Fillon, qui doit le porter dans son cœur, lui a fait un beau cadeau de campagne, en début de campagne, il lui a dit, voilà, tous les ministres qui seront battus devront démissionner. Alors, l'électeur moyen, hein, qui se dit, oh, il y a quand même beaucoup, en plus on lui dit, supplément, on dit à l'électeur moyen, il va y avoir un tsunami bleu. Donc le gars dit, bon, on va quand même donner une petite leçon au passage à Sarkozy. Et donc il vote contre Juppé. Et Juppé se retrouve le nez dans la luzerne. Or, c'est très grave parce que, comme j'ai eu l'honneur de l'expliquer dans le précédent numéro du Libre Journal, le prochain paraissant demain, ce Juppé, il était le véritable Premier ministre. Parce que quand vous avez entendu parler Fillon pendant 2 minutes, quand vous l'avez vu se comporter, quand vous avez vu sa tête et tout, vous pouvez pas croire une seule seconde qu'il est Premier ministre, c'est pas vrai. Vous pouvez pas croire qu'il ait la moindre autorité sur d'autres ministres. C'est impossible. Donc c'était Juppé le patron. On voyait bien par l'étendue de ses attributions qu'il était Premier ministre. Or c'est un Premier ministre qui a été imposé par la World Company, parce que c'est un homme de la World Company, tout simplement. C'est un type de Bilderberg, Davos, etc., etc. Et donc, ils se sont retrouvés avec leur Premier ministre éjecté. Alors, il a fallu réagir. Et c'est là qu'on a vu arriver Borloo. Alors, c'est intéressant de savoir qui est Borloo. Borloo, c'est un type qui est... Il est sympathique. Voilà. Ça, c'est vrai qu'il a une bonne gueule. Mais... c'est une marionnette, enfin c'est pas une marionnette, c'est pas ça, c'est un faux semblant d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que, vous savez, il donne l'allure, on a toujours l'impression qu'il a dormi sur un banc de public.
Absolument.
Après avoir passé la nuit à pocharder. Bon, pas du tout, ça c'est pas vrai du tout. Il est milliardaire. Il avait été classé par le magazine Fortune comme le 5e avocat le mieux payé du monde. Quand vous savez ce que gagnent les avocats américains, vous avez une petite idée du fric que ce type a pu ramasser. C'est un spécialiste des faillites. C'est-à-dire un avocat prédateur, ce qu'on appelle, quoi, en bon français. Il est au barreau ce que Tapie était aux affaires. Et d'ailleurs, ils sont copains comme cochons. Ils ont travaillé ensemble. Tapie prétend qu'il a fait HEC, ce qui reste quand même à démontrer, et qu'il avait comme prof, quand il était à HEC, Borloo. J'ai des doutes, mais enfin, c'est lui qui le dit. Hein. Donc, sous ces dehors de type un peu froissé, comme ça, un peu fripé, il est plutôt friqué que fripé. D'autre part, il passe pour un type social. Alors, je vais vous donner un exemple du comportement social de Borloo. Un jour, il y a un gars qui est dans sa ville, à Valenciennes, et qui est ingénieur informatique. Il est vidé de sa société parce que la société a été vendue. Il touche les assédics, il cherche du boulot, il a 50 ans, il trouve pas de travail. Donc, il attend, il finit par ne plus toucher les assédics, il finit par se retrouver au RMI. Et là, il se dit, il faut faire quelque chose, il peut pas monter une boîte d'informatique parce que ça suppose des fonds qu'il n'a pas. Donc, il décide de monter une boîte de service à la personne. En gros, une petite boîte qui va aller expliquer aux petits vieux de Valenciennes ou aux gens du coin comment on sert de l'ordinateur, puis faire des petites réparations, des petites installations, des trucs comme ça, ce qui est pas bête. Et il commence à chercher, à se renseigner sur les aides, puisque Borloo est l'inventeur des sociétés unipersonnelles. Donc, on lui a dit qu'il y avait des aides qui étaient prévues et tout, et il s'aperçoit qu'il a droit à absolument aucune aide, que rien n'est fait pour ça. Alors, il envoie une lettre à Borloo en lui disant ce qu'il en pense. Une lettre un peu à cheval, quoi. Enfin, une lettre d'engueulade, quoi, carrément, en disant, vous foutez du monde, vous avez dit ça, ça et ça et ça, et c'est pas vrai, et moi, maintenant, je suis au Rémi, etc. Et effectivement, quelques jours plus tard, il reçoit une convocation de la préfecture. Alors, il va à la préfecture, tout content, en se disant, ils vont m'aider. Et là, il tombe sur un mec qui lui dit, monsieur, enquête sociale, combien gagnez-vous? Où habitez-vous? Que faites-vous? Vous n'avez que ça comme revenu, mais vous pouvez pas élever votre enfant. Mais vous avez ça comme revenu, mais alors vous n'avez pas droit à la gratuité des fournitures d'énergie, enfin au prix spécial. Alors le type apprend que on va lui couper l'électricité, le gaz, l'eau, on va lui laisser de quoi remplir 5 litres d'eau par jour, une gamelle de 5 litres, et naturellement, comme dans ces conditions il ne peut plus élever son enfant correctement, on va en lui prendre son gosse pour le foutre à la DDS. Voilà, ça c'est le côté social de Monsieur Borloo. Et accessoirement, Borloo, eh bien, c'est aussi un homme de la World Company. Et sa nomination a eu pour effet, quand même, comme il n'a pas l'envergure de Juppé, sa nomination a eu pour effet de propulser Madame Lagarde aux finances. Madame Lagarde, qui était ministre de l'Agriculture et de la Pêche, s'est retrouvé aux finances. C'est-à-dire, on nous a dit, c'est la première fois qu'il y a une femme ministre des Finances, etc. Bon. Madame Lagarde, il faut quand même savoir que, avant d'être aux finances, elle était au commerce extérieur. Avant d'être à l'agriculture, elle était au commerce extérieur. Et avant d'être au commerce extérieur, elle était la collaboratrice elle travaillait dans un groupe américain dont le travail était de contrer les intérêts français, les intérêts du commerce extérieur français en Europe.
C'est quand même pas mal.
Et elle a défendu notamment quand il y a eu la fameuse polémique, vous vous souvenez, à propos des ventes d'armes avec la Pologne. Les ventes de matériel militaire avec la Pologne, où Chirac avait fait une sortie qui avait été assez mal appréciée, elle était du côté américano-polonais. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a à cœur la défense des intérêts français. D'autre part, elle était la présidente du plus grand groupe de lawyers, c'est-à-dire d'avocats, mais d'un type un peu spécial, américain. Le plus grand groupe du monde, qui s'appelle Baker & McKenzie. Et Baker & McKenzie est spécialisé dans la défense des intérêts des multinationales et notamment des fonds de pension. Ils sont les plus gros prédateurs de l'économie française en ce moment. Ils rachètent tout ce qu'ils peuvent racheter. Notamment, ils rachètent en ce moment les papeteries. Alors, il faut savoir pour mémoire, sans que ça ait grand-chose à voir, que c'est Borloo qui a été le terminateur de l'affaire de la chapelle d'Arbay, qui a permis au fonds de pension Carlyle de faire main basse sur la plus grosse boîte de papier et de carton français en organisant une fausse faillite. Et puis, à la place de Madame Lagarde à l'agriculture, on voit arriver Monsieur Barnier. Et Monsieur Barnier, qu'est-ce que c'est? Ben, Monsieur Barnier, c'est tout simplement un... Alors lui, c'est une marionnette du mondialisme qui a tenu des propos ahurissants sur la nécessité de mondialiser absolument tout et qui va être en charge maintenant de l'agriculture. C'est-à-dire, son boulot, à lui, ça va être de... C'était déjà le boulot de Madame Lagarde, mais c'est de liquider l'agriculture française, qui est un vieux plan qui remonte à très très loin, puisque le premier qui a entrepris de liquider l'agriculture française, c'était M. Pisani, qui avait pour mission de détruire l'agriculture, mission confiée à lui par le général de Gaulle, lequel général de Gaulle ne voulait plus de classe moyenne en France, parce que les classes moyennes, c'est des emmerdeurs, et qu'il fallait donc détruire la petite bourgeoisie commerçante, ça a été fait avec les grandes surfaces, et la petite bourgeoisie paysanne, ça a été fait par M. Pisani, qui avait inventé le concept des agro comment, des agrovilles, qui consistait donc à considérer que les champs, que l'agriculture était une industrie, que les champs devenaient des usines, et que par conséquent, au milieu des champs, il fallait monter des cités, exactement comme les cités des banlieues, dans lesquelles les paysans vivraient, dans des petits appartements, avec télévision, etc., etc., et des hauts rez-de-chaussée, des garages pour tous les engins agricoles, et puis le matin, ils partiraient travailler pour faire leurs 8 heures, et faire leur semaille, leur récolte, etc., pendant 8 heures ou 9 heures ou 10 heures, et puis le soir, ils rentreraient chez eux pour se coucher, avec le sentiment du travail bien fait. Donc ça fait maintenant 50 ans, et 50 ans après, M. Barnier a pour mission de liquider cette agriculture française et de transformer la campagne française en une espèce de gigantesque Disneyland avec des faux villages, des villages Potemkin, avec des ronds-points. Je ne sais pas si vous avez remarqué que maintenant, un village qui n'a pas un rond-point, c'est considéré comme...
C'est pas chic. C'est plus un rond-point, c'est 10 ronds-points, c'est invraisemblable. Ouais. Alors parfois, ils font des ronds-points avec des débuts de route qui n'existent pas. C'est au milieu d'une grotte, vous avez un rond-point, et puis des petits trucs de 3 mètres qui donnent dans les champs. Ça serait intéressant pour un journaliste que nous ne sommes plus à Minutelas d'enquêter un petit peu sur qui va l'argent. Et à partir de quelques villages, on fait des ronds-points.
Voilà. C'est quand même pas que les édiles municipaux sont corrompus, non?
Bon, non.
Bon, voilà. Bon, il suffit
d'avoir enquêté sur les Jacques Lang et autres pour savoir qu'ils ne sont pas corrompus.
Ils ne sont pas, absolument. Ah, voilà. Jacques Lang, c'est simplement Jacques Lang, il est économe, lui.
Je me souviens un jour de Jacques Lang m'interpellant dans sa mairie. Oh, vous encore, minute, etc. Vous fouillez tout le temps dans les poubelles. Je lui ai répondu, où voulez-vous que je vous trouve ailleurs que dans les poubelles, monsieur Lang?
Oui, mon petit. Téléphone? Ah oui. Alors, chaussez vos casques. Ça, c'est le docteur Perel qui appelle. Allô, allô?
Oui.
Docteur, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Beckett.
Alors, vous avez la gentillesse de nous téléphoner pour nous donner des nouvelles d'une nouvelle opération Saint-Nicolas du Chardonnay, en quelque sorte.
C'est encore, c'est la France profonde qui résiste, hein, à Niaf.
Hein. Niaf, là, oui, ça, j'aime bien ce mot-là, Niaf.
Les Niaf, Niaf, hein, parmi les blés lourds qui entourent l'hippodrome de Cran. Ah, il faut vous situer un petit peu Niaf, c'est Cran est à 30 km au sud de Laval et Niaf est à 5 km. Et il se passe un drame, je dirais, psychorligieux, puisque nous occupons l'église de Niaf depuis un mois, nuit et jour.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que la paroisse de Niaf était desservie par un vieux prêtre, l'abbé Cher, qui est mort à 94 ans le 6 mars dernier, hein, et qui avait fait appel dans les dernières semaines de sa vie, hein, pour l'aider, pour l'assister, un jeune prêtre de l'abbé, de la fraternité Saint-Pierre, l'abbé Lodet. À la messe de sépulture de l'abbé Cher, le monseigneur Maillard, l'évêque de Laval, avait annoncé qu'il autorisait provisoirement, pour une période de quelques mois, jusqu'à l'été avait-il dit, l'abbé Lodet a célébré la messe dominicale à Niaf, selon le rite tridentin. Alors ça avait été, je dirais, une surprise pour tous, j'en étais très heureux, et ça a été la joie et le bonheur pendant 2 mois et demi. Puis, au mois de mai, le 23 mai exactement, il faut dire que l'abbé Lodet a augmenté la clientèle de l'abbé Cher, hein, on est passé de 150 à 2 paroissiens réguliers, à 250 et peut-être un peu plus, grâce à la messe tridentine autorisée par l'évêque. C'était vraiment une merveille. Et puis, le 23 mai, l'évêque annonce, Mgr Maillard annonce qu'il va faire une réunion publique, après avoir décommandé 2 jours auparavant, l'audience qu'il avait accordée à nos amis pour discuter de l'avenir de cette paroisse un petit peu particulière, qualifiée de traditionnaliste par certains, à juste titre d'ailleurs, mais enfin sans excès dans la tradition, puisqu'on était resté au fond avec un prêtre paroissial tout à fait ordinaire, mais qui avait gardé la soutane, etc., et qui donnait les sacrements, ce qui devient rare dans le milieu ecclésiastique. Et puis, cette 2 jours avant la réunion publique, l'évêque annule la réunion qu'il avait accordée à nos représentants. et il annonce cette réunion publique en disant qu'il avait écouté tout le monde, ce qui est faux, puisqu'il a écouté tout le monde, il nous a écouté ses confrères, il a écouté les autres évêques, il a écouté tous les gens qui vont pas à la messe à Niaf, sauf ceux qui allaient précisément assister à cette messe. Et il annonce sa décision, fermeture de l'église, qui va être soumise au régime de base du remboursement minimum de sécurité sociale qui règne dans le diocèse, c'est-à-dire une messe tous les deux mois, tous les 11 semaines exactement. Et que dans sa grande bienveillance, il accorde une messe en latin, puisque vous y tenez, on va vous donner du latin, mais à Laval, à la préfecture du diocèse. Ce qui en soi est une bonne chose, mais ne correspond pas du tout aux besoins de la communauté que nous représentons, ni aux besoins de la population. Alors, quand on a vu cette décision, qui était prise finalement sans aucune concertation, contrairement à ce qu'il avait dit, nous avons occupé l'église. Illico, le soir même, et nous y sommes restés, ça fait un mois que ça dure. Nous étions partis pour 3 jours, on s'est dit on tiendra bien 3-4 jours, on verra bien, il faut que nous discutions, et puis en fait ça fait un mois et ça continue. Ce que nous réclamons, si vous voulez, c'est que la communauté ne soit pas dispersée, et que, au fond, nous avons un prêtre qui est l'abbé Laudet, nous avons une église qui est l'église de Niaf, celle-là ou une autre, ça peut se discuter, nous avons autour dans les environs d'autres églises qui ne sont pas desservies, dont la municipalité serait favorable à nous accueillir, mais ce que nous voulons, refusons, c'est que la communauté soit dispersée, car il y a beaucoup dans cette paroisse, il y a beaucoup de jeunes ménages, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfants, et qui seront privés des sacrements, de même qu'il y a beaucoup de gens, de paysans, des environs, etc., qui n'auront plus de messe si la messe disparaît. L'abbé Laudet veut bien continuer, la fraternité Saint-Pierre, ses supérieurs l'encouragent, sont tout à fait d'accord, mais il faut l'autorisation de l'évêque. L'évêque se plaint de n'avoir pas de prêtre, il ordonne un prêtre tous les 5 ans à peu près. Là, il y en a un que la Providence lui envoie, et il n'en veut pas. Alors voyez-vous, c'est un petit peu un dialogue de sourds, hein, et parce que l'évêque prétend que nous ne sommes pas intégrés. Alors, c'est pas très bien.
Au moins, vous êtes intégriste.
On ne sait pas ce que c'est que d'être intégré, parce que nous sommes catholiques, on s'est baptisés, on va à la messe le dimanche, etc. Mais l'intégration, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est peut-être parce que nous sommes attachés à la messe tridentine qui nous a accordé. Hein. Mais alors, il nous menace de nous envoyer la police, hein, pour nous déloger, et au nom de la loi républicaine, ce qui commence à être comique, parce que...
Mais il n'est pas chez lui, là, dans l'église.
Mais c'est lui qui est quand même l'évêque qui a la responsabilité de l'utilisation, il est l'utilisateur. Si
oui, mais c'est le maire qui peut vous envoyer la police, non?
C'est pas le maire. Le maire ne peut rien faire, c'est le préfet à la rigueur, à la demande de l'évêque. Hein, mais il faut un jugement. Alors vous savez, on n'est pas vraiment. Enfin, cette histoire de, il invoque la loi républicaine et pas les lois de l'Église, ce qui finalement, ne nous oblige pas en conscience. Hein, ça c'est. Hein, mais c'est cette intégration que veut nous faire donner l'évêque, Monseigneur Maillard, ça ressemble quand même beaucoup aux dragonnades de Louis XIV. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
Moi, je trouve que si, surtout du côté de Laval, il ferait mieux s'occuper de l'évangélisation des nouveaux Français.
Exactement, mais ça.
Là, il y a du boulot, là.
Ils s'en occupent beaucoup, mais surtout pour leur donner un petit peu à boire et à manger, mais ce n'est pas du tout pour essayer de les convertir, n'est-ce pas? Ça, c'est pas du tout sa tasse de thé. Alors, si vous voulez, nous tombons, nous essayons. Nous, ce que nous voudrions, c'est qu'il continue à nous donner ce qu'il nous a accordé pendant 2 mois. C'était parfait. Et ça n'aurait fait aucun scandale, aucun problème. Hein, nous installons maintenant pour l'été. Alors, nos projets, c'est d'abord de faire... vous savez, à Paris, vous avez les régions parisiennes et très favorisé avec le maire de Paris qui avait fait, je crois, tête à plage. Alors nous, on a commandé 4 camions de sable fin pour faire la plage. Hein, vous comprenez, ça va, on commence comme ça, de façon à ce que les...
Ça, c'est, vous êtes sérieux, vous allez faire ça?
Sûrement,
c'est drôle comme tout.
Que les enfants des gens qui sont dans l'église puissent faire des pâtés de sable tout l'été, voyez-vous. Hein. Alors évidemment, nous
avons... Il faut faire creuser une piscine, alors.
On va creuser une piscine, enfin, je sais pas.
C'est plus ça, la piscine de Siloé.
Nous installons dans la durée, et c'est pour ça que nous avons besoin du soutien des auditeurs de Radio Courtoisie, que je salue ici, et que je vous remercie de me donner un petit peu la parole, parce que nous avons que cette occupation d'église, bon, en soi très bénigne, mais scandaleuse, nous sommes bien d'accord, mais il faut que l'évêque, quand même, prenne conscience de ce que, de nous donner notre droit, parce que qu'est-ce que nous réclamons, c'est la messe, le catéchisme, et pas la catéchèse, et les sacrements, hein, et, bon, pour faire notre salut.
Oui, surtout que, comme le fait remarquer le général Kellenek dans une lettre dont il m'adresse une copie, c'est pour le moins paradoxal, en ces temps où s'exprime de manière de plus en plus explicite la bienveillance du Vatican à l'égard de l'usage de, du rite traditionnel, cette attitude surprend. Mais ce qui surprend le plus, dit-il, c'est le style que vous employez pour argumenter. On le croirait sorti d'une loge maçonnique ou d'un comité de salut public. En occupant cette église, ce groupe est hors de la loi de la République, donc en infraction. Je souhaite qu'ils entendent mon message.
Voilà.
A-t-il déclaré, où est-ce qu'on ce bon évêque, ce bon apôtre?
Alors nous avons, bah évidemment, ça fait un peu de bruit. Alors nous sommes soutenus évidemment par les quotidiens nationaux, en premier rang desquels Présent, qui a fait plusieurs articles sur l'affaire de Niapp, mais aussi Le Monde l'a évoqué d'une façon assez sympathique, Le Figaro, Le Parisien, hier on avait Europe numéro 1, aujourd'hui on a vu les journalistes du Journal du Dimanche, etc. Bon, plus la presse locale qui, de style au départ, après est venue nous voir dans l'église de Niapp, bon, on fait des articles un peu goguenards, mais enfin c'est... Voilà.
Mais comment il s'appelle, ce mec ?
Maillard, Monseigneur Armand Maillard.
Armand Maillard.
Alors, si vous voulez, je pense que, d'abord, nous allons faire un comité de soutien national. C'est Jacques Le Morvan qui va se charger de un petit peu de ça. Donc, si les gens, les auditeurs de Radio Courtoisie veulent nous aider, nous soutenir, c'est d'adhérer à ce comité de soutien, dont l'adresse, je vous la donne tout de suite, c'est 2 rue des Éperons, Éperons comme... L'éperon du cavalier, 53 400 à Cran. Cran, ça s'écrit C-R-A-O-N. Ça s'écrit Craon et ça se prononce Cran.
Ben oui, comme une vieille famille française.
Voilà.
Deux rues des...
Bon, on se tient bien parce que le
président...
53 400. Bon, et je crois deuxièmement qu'il faut écrire à Monseigneur Maillard et au cardinal Ricard. Hein, éventuellement, non, ça peut l'estélique. Alors, je peux vous donner, si vous voulez, l'adresse... de Monseigneur Maillard, il faut écrire en disant, mais enfin, qu'est-ce que... Enfin,
Maillard.
C'est pas la peine de lui envoyer des lettres d'engueulade. Hein,
non, ben, la lettre du général Kellenek est parfaite. Il lui remonte le moral, il lui dit, votre combat excellent, c'est perdu d'avance.
je dois dire quand même qu'il a reçu le soutien de la Fédération anarchiste de France.
Ah, oh, ben alors, oui, ça, avec ça, faites tranquille.
Nous avons une messe qui est dite par un prêtre parisien, un prêtre mexicain, la Bénéry, qui vient tous les dimanches de Paris pour dire la messe. Parce que nous la disons à l'extérieur, parce que comme l'évêque a fermé l'église, par respect pour son autorité, nous disons la messe dehors.
Hein. Mais vous êtes dans l'église et vous sortez pour la messe.
Et nous sortons pour la messe, oui, parce qu'il y a ceux qui sont dans l'église, il faut bien qu'ils aient la messe, puis il y a toutes les familles autour, il y a les gens du pays qui viennent, etc. Il y a 100 personnes, 120 personnes à la messe dimanche dernier, mais oui, 120 personnes à peu près. Voilà. Bon, puis il y a aussi la messe de Laval organisée par l'évêque, ça c'est très bien, mais enfin, il va la faire dire par les prêtres diocésains.
Il va demander au type de la Fédération anarchiste, ça amènera du monde.
Alors, la Fédération anarchiste a placardé sur les portes de l'église, où nous avons mis, nous, quelques affiches du style « Quand l'évêque l'ouvre, l'église ferme hein, », ils ont mis « L'évêque a raison, les cathos sont des cons ». C'est quand même assez extraordinaire. La loi républicaine
C'est superbe. Alors, quand l'évêque fait appel à la police, la Fédération anarchiste soutient l'évêque.
Voilà.
C'est
voilà.
Fabuleux, on croit rêver.
Voilà.
C'est vraiment de la brutie, ces anarchistes. Je parle des anarchistes, parce que les évêques, c'est pas la
peine. Lequel est le plus abruti.
Hein oh, il y a des dites, comme on dit, chez les...
Voilà.
Chez les turfistes.
Alors, écoutez, M. Beckett, je vais vous...
Merci, docteur. Oui, alors...
aux auditeurs, l'adresse de Monseigneur Maillard, parce que je crois que c'est important, de greffons qu'il soit noyé sous le courrier, hein, ça c'est...
Noyons Maillard.
Alors, c'est Monseigneur Armand Maillard, 27 rue du Cardinal Suard, 53 000, Laval.
En plus, rue du Cardinal Suard, enfin, c'est...
Le Cardinal Suard, c'est un Mayennais, il a été évêque de... archevêque de Paris, mais il est originaire de la Mayenne.
Ça ne s'invente pas, tout ça.
Honoré à Laval. Voilà. Et je donne également l'adresse de son éminence cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, qui est président de la conférence épiscopale des évêques. Je crois que c'est important également de lui faire savoir que il serait bien d'être bon et miséricordieux avec le petit groupe de des paroissiens de Niaf. Là, Monseigneur Ricard, c'est 183 cours de la Somme. La Somme, c'est la guerre de 14, n'est-ce pas? 33 000 Bordeaux.
Voilà. Merci, docteur.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli. Et à bientôt.
À bientôt.
Et bon courage, nous allons continuer à résister grâce à vous.
Tenez bon.
Au revoir.
Au revoir.
Serge, vous avez le nom exact?
Voilà.
Le village, c'est...
Niafle.
Comment l'écrivez-vous?
N-I-A-F-L-E-S.
N-I-A.
F-L-E-S.
Très bien.
Niaf. C'est des petits cochons, c'est le village des petits cochons.
Vous voulez pas que je vous lise les messages du début, comme ça
Libérez-moi, oui. Lisez-moi tout.
Allez. Alors, donc, vous avez d'abord beaucoup de compliments. Soutien ferme et fondamental à Serge de Beckett. Ce qu'il dit est un nectar. Le reste, c'est de la roupie de Sansonnet. Félicitations pour votre liberté de ton.
Non, mais le reste, c'est pas le
Qu'est-ce
reste.
Qu'est-ce que ça veut dire, le reste?
Voilà. Non,
mais ce sont les autres radios, bien sûr.
Ah,
vous voilà. Me faites hurler
vous
de...
Vous faites peur.
Vous me faites hurler de rire, merci. Oh là là. Bon, ça, je vous dis pas, alors. Bon. On a voté Sarkozy pour respecter... Ah,
ben
alors, ça, c'est les contres.
C'est ce qu'il faut lire, puisque bon, le président est là.
Puisqu'il est là, on peut le lire, d'accord. Heureusement qu'il y a le mercredi, l'émission de Serge Lebecatch, car Radio Courtoisie devient de plus en plus... Car Radio Courtoisie devient de plus en plus Radio Sarkozy.
Ah, ça c'est. Non, je te dis, je suis obligé de dire que c'est pas
franchement.
C'est pas chez
franchement,
vous, c'est pas chez vous.
L'équilibre est respecté.
Scrupuleusement.
Scrupuleusement. Démocratiquement, Serge.
Bon.
Et pour ma part, je ne suis pas suspect, oui, de l'escalade pareil.
Non,
je ne suis pas
dans
suspect.
Mon pour proférer des grossièretés.
Je ne suis pas suspect de sarkozisme excessif.
Non, on peut pas dire ça, non.
Alors, voilà les sarkozistes, enfin ceux que vous avez attaqués tout à l'heure. Ah. On a voté Sarkozy pour respecter le principe de l'union des droites. Quant à la jeune femme d'origine sénégalaise, c'est bon. Vous qui travaillez dans c'est point de suspension, je ne sais pas. Vous qui travaillez dans le 10e, donc pas loin des 18e et 19e, c'est l'image de la France. La jeune femme, c'est l'image de la France.
Ah, d'accord.
Ça explique aussi en partie la décroissance des voix de la droite nationale. Boom.
Mais pourquoi il n'y a pas de ministre turc? Parce que dans le 10e, il n'y
a pas
d'asiatique
non plus.
D'asiatique non plus. Il faudra un turc, un asiatique.
Entièrement d'accord.
Un tchétchène.
Entièrement d'accord sur le fond.
Tchétchène de télévision.
Mais si Jean-Marie Le Pen avait été qualifié pour le deuxième tour, nous aurions un gouvernement socialo-bérouiste, communiste, entre deux mots, il faut choisir le moindre.
Mais je ne suis pas du tout certain que ce soit le moindre des mots, c'est ça qu'il faudra me démontrer.
J'ai voté pour le changement et pour sauver la France de demain et non celle d'hier. Nicolas Sarkozy, à midi, a fait un discours très convaincant et je lui fais confiance pour remettre la France à sa place, la première. J'appréciais beaucoup vos commentaires, mais aujourd'hui, vous allez trop loin. Nicolas Sarkozy est un fin stratège qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi. Vous verrez que la France va aller beaucoup mieux et très vite.
Je ne m'en doute pas, avec Madame Rachida Dati, avec Madame Ramariadé, avec Madame Fadela Amara. Ça va certainement aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est évident. Je me demande d'ailleurs pourquoi on a attendu si longtemps pour
avec
ce
M. Kouchner, si vous pouvez dire.
Vous faites du mal à voir le mal partout. Je vous promets que c'est très agréable d'être optimiste. Cela rend la vie plus belle.
Ah oui, il y a un mot beaucoup plus court pour dire optimiste.
Oh, que c'est vigilant.
Oh. Non, mais attendez.
Larcer, je ne comprends pas que vous ne voyez pas que vous avez un point commun avec Sarkozy.
Allez.
C'est l'amour de la vodka.
Pas du tout, je ne bois absolument pas.
Non,
je
mais la vodka, c'est un excellent alcool russe. Et vous savez que depuis l'entretien de M. Sarkozy avec M. Poutine, on sait que
le seul point
M. Sarkozy a une faiblesse pour la vodka.
Il
le seul point commun que j'ai avec Sarkozy, c'est que j'ai de lointaines origines hongroises.
Ah, votre cousin.
Mon père était dans la Légion étrangère et que le sien a essayé d'y entrer. Voilà, c'est tout. Mais... autrement, non, on n'a aucun point commun. Vraiment,
la vodka, même pas la vodka.
Non, même pas.
Son père a été à la Légion étrangère, il en est sorti quand il fallait partir pour la guerre d'Indochine.
abrité
son père était...
Il y a des mecs qui s'engagent pour le temps de guerre, je vais s'engager pour le temps de paix.
On ne peut pas quitter la Légion avant 5 ans tout de même, comme
si
on est sorti...
Il n'a pas renouvelé certainement son contrat. Il y a
deux écoles.
Dans un cas, il a été réformé pour une quelconque cause de santé. Dans l'autre cas, il n'a pas renouvelé son contrat.
Avez-vous trouvé la moindre motion de famille dans les intitulés des ministres ou des ministères ou des secrétariats d'État? Au passage, Madame Lagarde a-t-elle été élue? Alors, à Wall Street, peut-être.
Oui, elle a été élue à Wall Street, exactement. Alors non, la famille n'existe pas. D'ailleurs, il y a un truc quand même qui est assez rigolo, c'est que Madame Fadila Amara, vous allez dire que je fais une fixation, oui, un peu.
Oui.
Elle est adjointe à Madame Christine Boutin.
Ça fait un mélange d'étonnant, quoi.
Ah, oh. Non, c'est pas du tout étonnant, ni détonnant, parce que Madame Christine Boutin, elle a trompé son monde depuis des années, et là, ben, elle vient de mettre bas le masque, puisqu'elle dit que, finalement, elle est très heureuse de travailler avec Madame Fadila Amara. Alors, cette femme qui a défilé, enfin, qui a prétendu être contre l'avortement, elle va être obligée de travailler avec une fille qui passe son temps à réclamer de la liberté de l'avortement, pratiquement de la conception après la naissance, et qui se proclame, qui passe son temps à dire qu'elle est pour que la femme dispose de son corps librement. Ce en quoi je suis d'ailleurs parfaitement d'accord, sauf quand le corps contient un autre corps dont elle n'est pas propriétaire, qui s'appelle
Madame Boutin va peut-être la convaincre.
Non, mais il faut compléter l'information de Serge. Serge ne sait pas que le président du comité de soutien de M. Sarkozy était une présidente qui s'appelait Mme Simone Veil. Et qui a fait la loi Veil. Et que M. Sarkozy est allé dire devant 2000 personnes à la Mutualité, un lieu bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, en tout cas de ceux qui habitent la région parisienne, il est allé dire si je suis élu, je vais mener le combat pour la libération de la femme de Mme Simone Veil, que j'admire. Et il a ajouté cette phrase extraordinaire: je veux que toutes les femmes qui ont été martyrisées dans le monde, reçoivent la citoyenneté française. Alors, on a envie de dire, mais combien voulez-vous? 50 millions
80 je sais pas. Oui, certainement plusieurs dizaines, même plusieurs centaines de millions. Ça me paraît le minimum. Non, ça fera des ventres, comme on disait avant la guerre. Donnez-nous des ventres, et ben voilà, vous allez en avoir, les enfants.
Il est finalement normal que le règne de Nicolas Sarkozy soit celui des cocus, n'est-il pas? Question de modèle.
Je ne sais pas du tout de quoi ça fait.
Non,
je tremble.
Alors, islam égale soumis. Alors, il ne faut pas que toutes ces femmes se disent attachées à l'islam. La tenue actuelle des Françaises de souche ressemble de plus en plus à celle des prostituées. Félicitations à Serge.
Je ne sais pas qui fréquente cet auditeur. Moi, je fréquente des dames qui sont habillées de façon tout à fait normale.
Quand on voit
même dans les campagnes des petites filles à partir de 8-9 ans être effectivement habillées comme de petites péripatéticiennes, c'est quand même très dommage. Et ça, c'est l'influence quand même de la télévision, parce que aujourd'hui, comme nous disions tout à l'heure, ce n'est plus le gros rouge qui détruit ce pays. C'est d'abord la télévision qui est totalement entre les mains du même pouvoir.
Oui, mais c'est pas en leur mettant un tchador qu'on va résoudre le problème.
Hein. Sait-on ce que Sarkozy et Le Pen se sont dit?
Je sais pas, Le Pen, oui. Le Pen a dit qu'ils avaient constaté qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'Europe, qu'il avait été reçu de façon aimable et démocratique. Voilà. Bon, c'est la moindre des choses quand même. Il ne représente jamais que encore au moins 5 ou 6 millions, sinon d'électeurs, du moins d'électeurs potentiels, de gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance. Ce qui s'est passé après, c'est autre chose. Sarkozy, il n'a pas invité Marine Le Pen, il a invité Jean-Marie Le Pen. C'est une question de représentativité, c'est tout. Voilà, c'est tous les messages, elle a déjà fini. Bon, bah écoutez, alors on va... Encore deux choses à propos du nouveau gouvernement. Il y a Bernard Laporte. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Bernard Laporte. J'adore le rugby, qui est le seul sport collectif que je supporte. Mais Bernard Laporte, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et vous savez où il place son argent, monsieur Bernard Laporte? S'il gagne bien sa vie, tant mieux pour lui. D'ailleurs, je m'en félicite. Et je l'en félicite surtout. Dans les casinos. Pas les épiceries, hein. Les casinos avec roulettes, etc. Alors... Je me demande, mais je pose la question, je n'émets aucune opinion personnelle. Je me demande si véritablement un propriétaire de casino est quelqu'un d'idéalement désigné pour faire un secrétaire d'État à la jeunesse.
Oui, il y a de moins en moins de roulettes dans les casinos, lesquelles étaient fréquentées par des gens en général un peu responsables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites machines à sous qui sont une catastrophe pour des gens simples et qui perdent énormément d'argent sans contrôle. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. C'est destructeur.
Alors, je sais pas, ça me paraît quand même bizarre. Bon, bref. Alors, quand on a fait la remarque à la porte, il a dit c'est un métier comme un autre. D'ailleurs, le groupe Accor est propriétaire de casino. Je vois pas pourquoi moi j'aurais pas d'intérêt dans les casinos. Le groupe Accor, c'est évident, ils sont propriétaires d'hôtels, c'est un groupe hôtelier. Alors, s'il y a des gens qui peuvent être propriétaires de casinos, c'est bien les groupes hôteliers. Et d'autre part, le groupe Accor, il a pas été désigné comme ministre de la jeunesse. S'il avait été désigné comme ministre des Jeux de hasard, Laporte, j'aurais dit que c'est très bien. Mais là, je m'interroge, c'est tout. Je ne critique pas, je m'interroge. Et naturellement, André Santini, alors là, qui est charmant, qui est drôle comme tout, André Santini, gros fumeur de cigares, et collectionneur du titre de ministre le plus rigolo, ou de député le plus rigolo de l'année, etc. Alors, lui, on va bien rire à la fin de l'année, parce que il vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire de la Fondation Hamon. Alors, la Fondation Hamon, c'est intéressant, parce que si vous comprenez quelque chose, vous m'expliquerez. Monsieur Hamon, c'est un monsieur qui est un richissime collectionneur d'œuvres d'art contemporaines. C'est-à-dire, il fait les poubelles, en gros, quoi. Et quand il a eu un peu trop d'œuvres d'art contemporaines dans sa boutique, il a décidé d'en faire don à l'État français. Alors, il a tout fourgué à l'État français, par l'intermédiaire, je suppose, de M. André Santini. Et là-dessus, on a appris que la conservation de cette collection coûtait 800 000 euros par an. Alors, moi, si je peux faire des cadeaux comme ça, je veux bien aussi offrir deux ou trois poubelles à un musée, et puis qu'on me verse 800 000 euros par an. Hein ? Après tout, c'est un moyen de vivre comme un autre. Voilà, donc je suppose, alors je vois au message d'ailleurs que nos auditeurs et lecteurs sont très très contents de ce gouvernement.
Moitié-moitié.
Eh bien écoutez, tant mieux pour eux. Il y a quand même un point positif que je voudrais retenir à l'endroit de Nicolas Sarkozy, c'est la position qu'il observe pour l'instant, sous réserve d'inventaire, sur l'affaire Borrell, du juge Borrell. Mais je me demande s'il n'y a pas une légère arrière-pensée anti-chiraquienne.
Voilà, petite peau de banane.
Parce que, oui, j'ai l'impression qu'il se dit c'est un bon moyen d'avoir la peau de Chirac, parce que là, il va y aller tout droit. Et Madame Jacques Chirac, Bernadette dite Bernie, parangon des élégances qui porte des vestes en blue jean avec des cols de vison, dit « Mon mari regarde avec beaucoup d'intérêt l'activité de son successeur. » Alors la journaliste lui dit sur TF1 « Mais ça veut dire qu'il porte un regard favorable ?»« Devinez, » répond-elle. Et elle ajoute « Il ne piaffe pas, il réfléchit et commence à s'investir dans de nouveaux projets. » Bon, s'il investit, c'est bien. On va dire qu'il a les moyens avec tout ce qu'il a piqué. Mais...
Je vous en prie.
Hein ?
Non, on ne peut pas dire cela. Il est présumé innocent.
C'est une plaisanterie.
Non, il est présumé innocent.
C'est... Bien sûr, il a pu l'appliquer innocemment, c'est bien ce que je veux dire.
Ah, bon.
Mais c'est évident. Je ne me permettrai pas d'accuser l'ex-président de la République de malversation financière. D'ailleurs, personne ne le fait. Je ne vois pas pourquoi je serais le premier.
Si, il a été accusé, mais il est présumé innocent.
Ah, bah alors si. Alors donc, je ne suis pas le premier.
Ah non. Bon, il a même été accusé dans une cassette, la fameuse cassette Mairie. C'est vrai, il a été accusé, mais...
Ouais, mais tout ça, c'était des morts. D'ailleurs, Mairie est mort, en plus.
Disons qu'il y a des soupçons.
Mairie est mort, en plus. Alors, donc, c'est bien la preuve qu'il était méchant. Il était puni parce qu'il était méchant. Voilà, oui.
À propos du mot NTM.
Ah, c'est grossier.
Nique ta mère.
Ah, nique tes mères,
c'est autre chose. C'est une durée de 24 heures.
Mais oui, on le sait.
Comprenant une période de veille et de sommeil, ça m'étonnerait que le groupe de rap se soit inspiré de ce mot issu du grec.
Certainement pas. Et d'autre part, ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça pendant 24 heures sans désemparer. Ah,
c'était du grec, j'ignorais.
C'est le grec.
On apprend des choses toutes les minutes sur...
Souffrez, monsieur, que pour l'amour du grec, on vous embrasse.
Nos auditeurs savent tout.
Ah oui, mais c'est nicté.
Bah oui.
Nicté, mère.
Oui, aussi,
vous ne saviez pas
le grec.
Il n'y a pas de cours de latin, Aléna.
J'ai fait du latin, mais pas du grec.
Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec.
Non, je n'ai jamais fait de grec. C'est une lacune que je confesse.
François Roy, vous pouvez rester un moment ou vous attendez votre liberté avec impatience?
Non, je reviens d'un très long voyage,
comme le montre votre bonne mine, que vous mettez en valeur avec une chemise Lacoste.
Pas de
publicité.
Pas de publicité mensongère.
Une fausse chemise Lacoste, achetée probablement dans un bazar d'Istanbul.
Contrefaçon. Achetée dans un bazar parisien. Ou entre les mêmes.
D'un rose, comment on appelle ça ce rose-là, qui est
fuchsia,
éteste,
non.
Fuchsia,
c'est fuchsia.
Un rose fuchsia qui met en valeur votre beau bronzage turc.
Merci.
On en parlera après. Alors maintenant, on va passer à une chose plus austère.
Austère. Histoire d'un bobard.
Ah oui, c'est un bobard austère.
Ouais, c'est un bobard austère, c'est une histoire.
La langue de bois est toujours austère, vous savez ça.
Ouais.
C'est un jeu de mots extrêmement fin que je viens de faire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ah oui, voilà. Merci. Le bois austère.
Oh là là, oui.
Merci. C'est... Heureusement que je l'ai signalé.
Donc, ah oui, là, j'avoue, ça m'a échappé. Hein.
Alors, je vous ai demandé de venir parce que justement.
Vous savez, à propos de John Moore, la contrepétrie de Sarkozy, il y a des difficultés à passer le bac. Sarkozy a passé son bac en 13 ans. C'était dans le cadre enchaîné, excusez-moi de. Passons à un sujet suivant, s'il vous plaît. Bon.
Non, parce que j'en ai une autre. Si vous voulez des blagues, je peux vous en raconter. Il y en a une qu'un auditeur m'a envoyée, quand même, je vais vous la lire, parce qu'elle vaut le coup. C'est... Alors, vous voyez, c'est une vieille, vieille blague, mais on la ressort maintenant, ce qui prouve que les gens croient vraiment que Sarkozy va faire quelque chose. Parce que ça commence comme ça. Nous sommes en septembre 2007. Nicolas Sarkozy a été élu président de la République française quelques mois plus tôt. C'est la rentrée scolaire au collège de Neuilly. Alors on fait l'appel. Henri Paul de la Turbinière. Oui, monsieur. 5e A, dit le proviseur. Charles-Louis de Pareil. Oui, monsieur, répond l'élève. 5e C, dit le proviseur. Louis-Nicolas-Édouard de Hautebourg. Oui, monsieur. 5e B, dit le proviseur. Mohamed Ben Mohamed. Oui, monsieur. Terminal A, dit le proviseur. Eh, monsieur, je ne veux pas en terminal, je suis en 5e. Terminal Roissy Charles de Gaulle, Mohamed. ça veut dire que les gens sont.
Ils prennent leur désir pour des réalités.
Voilà, il y a des gens qui croient vraiment que.
C'est une habile transition avec l'histoire du bobard.
Et alors, il y en a une autre qui est très jolie aussi, c'est donc le susdi qui se présente chez le docteur. Il dit, docteur, j'ai mal au dos. Alors, le docteur lui dit, comment ça se fait? Quel travail vous faites? Il dit, je ramasse des pierres, je les mets dans la bourrette et je les porte sur le tas. Ah oui, et c'est ça qui vous fatigue? Vous faites ça depuis quand? Je commence demain.
Ça, c'est l'histoire corse. Vous n'avez pas pris le bon accent, Serge.
Ah, pardon. J'ai pas de talent pour les accents, donc je me suis trompé. Mais je vais la raconter en Corse, mais après, je ne viendrai plus à la radio pendant 6 mois, parce que je ne veux pas être là quand ça pétera.
Bien. Un auditeur nous révèle pour ce qu'a dit Sarkozy à Jean-Marie Le Pen. Il lui a dit « Bon anniversaire ».
C'est gentil.
C'est Lapin Bleu qui dit ça.
C'est Lapin Bleu qui dit ça.
Lapin Bleu, il est formidable.
Est-ce qu'il ne lui a pas dit plutôt merci? Merci pour toutes les voix que vous m'avez apportées.
Il aurait pu.
Merci. Bon anniversaire. Eh ben, oui, mais vous savez que c'est dans la tradition, c'est en fait les gens dont c'est l'anniversaire qui font les cadeaux.
Ah ouais?
Et voilà. Timeo Danao, c'est Dona Ferentes.
Oh.
Hein? Ce qui veut dire.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Timeo Danao, c'est Dona Ferentes.
Alors si on construit
les pages
grosses,
même s'ils font des cadeaux.
Je crains les Grecs et ceux qui vous font des cadeaux, mais en fait, ça ne veut pas dire ce qu'on croit.
Non.
Ça veut dire je crains les Grecs, même lorsqu'ils font des cadeaux, qui sont pieux, qui font des cadeaux aux dieux.
Oui, c'est ça. C'est, voilà. C'est bien comme ça que j'avais traduit.
Donc je crains les Grecs, même lorsqu'ils ont.
Mais alors justement, puisqu'on en parle, revenons à notre sujet. Alors, on a parlé de sécurité sociale.
Le bobard. Écoutez.
Vous avez vu qu'il y a une nouvelle directive européenne qui vient de paraître quand même sur cette histoire de sécurité sociale.
Laquelle?
Du 2 mai.
Ah non, je ne connais pas celle-là.
C'est une directive européenne, j'en ai pris une copie, mais je vous avoue qu'à la quatrième ligne, j'ai craqué parce que je ne pratique pas la langue.
Montrez-la moi, on va dire ça.
Je vous souhaite bien du plaisir. Tenez, amusez-vous, on va être tranquille pendant une demi-heure.
Oui,
c'est du 2 mai. En gros, ça explique qu'il n'y a rien changé par rapport à ce qui se passait avant.
Ah non, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Alors, si vous voulez, je peux vous raconter comment j'ai réagi au bobard en question. Donc le bobard en question se formule ainsi, ouvre les guillemets, l'Europe a aboli le monopole de la sécurité sociale. Alors je vous précise tout de suite que si c'était vrai, ce serait formidable. Je suis pour ma part, je ne sais pas quelle est votre opinion Serge, un grand adversaire du monopole de la sécurité sociale. J'ai fait en 1989, vous voyez, ça fait déjà quelques années, avec plusieurs amis, et dont Jacques Garello, un ouvrage intitulé « Privatiser la sécurité sociale », où nous expliquons que la sécurité sociale est vraiment un système soviétique qui devrait être détruit par libéralisation. Et nous disions notamment ceci, excusez-moi, alors là c'est un peu sérieux, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les institutions de sécurité sociale créées à la libération sont un héritage des conceptions étatistes qui se sont épanouies dans les années 30. Elles forment, pour ainsi dire, un bloc de système soviétique immergé dans une société libérale. Elles illustrent deux grands principes typiquement socialistes, la vision constructiviste de la société d'une part, la socialisation de la morale d'autre part. Donc je veux dire que là, je représente le club de l'horloge, et nous ne sommes pas suspects de sympathie à l'égard du monopole. Seulement, dire qu'une chose est souhaitable, l'abolition du monopole, ce n'est pas la même chose que dire que c'est déjà fait. Donc, il faut savoir que c'est un bobard. Ceux qui vous disent que c'est déjà fait, vous racontent des histoires. Alors, ça existe depuis 1992. L'Union européenne a sorti une directive disant que les assurances étaient en concurrence. Et depuis 1992, j'ai entendu des gens qui me disaient très sérieusement, mais pas des minus abas, des gens compétents, des gens de bon niveau.
Il n'y a pas que des minus abas qui parlent de ça.
Non, c'est justement très intéressant. C'est pour ça que c'est un superbe bobard qui me disait, mais non, la directive de 1992 supprime le monopole. Et j'étais totalement sceptique. Pourquoi j'ai été sceptique avant d'avoir regardé le dossier de près? D'abord parce que j'imaginais mal que la France ait accepté cette abolition du monopole. Et quand je dis la France, les autres pays aussi, parce que je sache, ni la Commission européenne, ni la plupart des pays européens, à part peut-être l'Angleterre et encore, n'ont jamais été dirigés par d'ultra-libéraux. Donc ça me paraissait totalement invraisemblable. Et puis, il y avait d'autre part un argument de bon sens, c'est que si jamais on avait aboli le monopole, on aurait vu un professeur d'université, et même plusieurs professeurs d'université, spécialistes du droit de la sécurité sociale, qui auraient fait en première page du Monde un grand article pour dire « La grande nouvelle, c'est que la directive de 1992 abolit le monopole. »
Bien. Accessoirement, on aurait probablement eu quelques manifestations dans la rue.
Et probablement, il y aurait-il eu des manifestations. Donc c'était totalement invraisemblable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'en avais marre, moi, de dire aux gens, écoutez, ça n'est pas vraisemblable, ça n'est pas sérieux. Ils me disaient, mais non, monsieur Intel, je ne le nommerai pas, et monsieur Machin, je ne le nommerai pas non plus, m'ont démontré qu'ils ont écrit ça, Bon, alors j'ai fini par vérifier. Et je peux vous assurer que la vérification du bobard, c'est 5 minutes pour un étudiant de droit de première année, et encore au premier trimestre. Pourquoi? Parce que vous avez une directive qui vous dit...
Et même Rachida Dati pourrait...
Ouais, à mon avis, même Fadela Amara, à mon avis.
N'exagérons rien, quand même.
En effet, il suffit de prendre la directive en question, la directive de 1992, la directive, alors soyons précis, hein, directive CE 92-49 du 18 juin 1992. Bon. Il faut la prendre. Et puis la lire. Alors effectivement, elle vous dit abolition du monopole des assurances. Mais vous avez un article 2.2 qui vous dit ceci. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73-239 CE ne s'applique pas. Alors évidemment, cet article définit le champ d'application. Ça ne s'applique pas en dehors du champ d'application. Donc il faut avoir le courage de se reporter à la directive de 1973. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle dit, cette directive de 1973, l'article 2 également. La présente directive ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Donc quand j'ai pris la peine de regarder les textes, en 5 minutes, j'ai vu que ça ne pouvait pas s'appliquer. Et puis, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, s'il y a des gens qui sont assez naïfs, je ne dis pas assez bêtes, c'est plutôt de la naïveté, parce que ce ne sont pas des gens idiots qui sont laissés berner. Pour croire à ce bobard, qui est évidemment un bobard, tant pis pour eux. Quand je dis tant pis pour eux, ça leur a coûté cher. Hein. J'ai reçu quand même, après en avoir parlé une première fois à la radio dans ma propre émission, j'ai reçu une lettre d'un malheureux qui me dit, qui m'envoie une copie d'une lettre qu'il a envoyée à des charlatans qui propagent le bobard, et qui me dit, j'ai diligenté les procédures préconisées par, par ces gens-là. J'ai toujours été débouté. Ces procédures m'ont coûté sans rien me rapporter pour l'instant. Et je lui dis, cher monsieur, ce n'est pas pour l'instant, ça ne vous rapportera jamais rien que des coûts financiers, voire des condamnations extrêmement pénalisantes. Alors, finalement, le ministère des Affaires sociales a fait son devoir, c'est-à-dire qu'il a publié, il a mis en ligne, il a publié un dossier très complet sur la question, très complet, envisageant la question sous tous ses aspects. Et, toute personne qui a envie de se plonger sur le sujet n'a qu'à regarder le communiqué que nous avons mis en ligne sur le site du Club de l'Horloge, clubdelhorloge.fr, www.clubdelhorloge.fr, qui donne quelques explications et qui renvoie au site du ministère des Affaires sociales. Alors évidemment, bon, les charlatans disent, oui, mais ces gens-là défendent leur fonds de commerce. Mais les charlatans aussi défendent leur fonds de commerce, parce qu'ils en vivent de ce bobard. Les charlatans expliquent, ah, mais vous savez, le monopole est aboli, mais on ne veut pas vous le dire. On vous cache la vérité. C'est un grand complot, on vous cache la vérité. Envoyez-nous de l'argent pour faire connaître la vérité. Et ça dure depuis 15 ans, quand même, ce bobard. C'est absolument incroyable. Alors.
Et ça permet de vendre des livres aussi. Et de
c'est la tombola organisée au profit des organisateurs de tombola.
Alors, si le bobard prospérait, c'est parce que personne, en fait, ne voulait s'opposer au bobard et le démentir. J'en veux un peu quand même à beaucoup de mes amis libéraux qui savaient très bien à quoi s'en tenir, mais qui ont dit, bon, ça sert la cause. Mais non, ça ne sert pas la cause. Si on veut abolir le monopole, il faut faire ce qu'il faut pour l'abolir.
Il y a une autre raison quand même, Henri Lesquin, c'est que si la plupart des libéraux ont gardé le silence sur ce bobard...
Coupable.
C'est parce que ce bobard était comme toujours accompagné d'un petit édifice de terreur qui consistait à trancher immédiatement, enfin plutôt à accuser immédiatement ceux qui dénonçaient le bobard d'être favorables au maintien du monopole.
Alors c'est pour ça que
vous contentez pas de dire que le monopole est maintenu. Vous le dites parce que vous êtes content, vous seriez content qu'il le soit. Donc vous êtes des défenseurs d'un monopole communiste, etc. Alors, j'ai entendu ça, on m'a dit ça à moi à 100 fois.
C'est débile. Et moi je suis bien placé pour m'exprimer comme je le fais, parce que je vous répète qu'en 1989, j'ai défendu, déjà avec Jacques Garello et quelques autres, dans le cadre du Club de l'Horloge, la nécessaire privatisation de la sécurité sociale. Nous avons condamné, et je condamne le monopole. Je dis que je n'ai pas un mot à retirer à ce que j'ai dit à l'époque, ou à ce que Jacques Garello a dit a fortiori, et je dis que ce monopole, il faudrait effectivement le supprimer. Mais le fait qu'il soit souhaitable de le supprimer ne signifie pas qu'il l'est déjà. Alors j'ajoute que les charlatans vivent au crochet des naïfs qu'ils dupent, mais il y a peut-être une autre raison plus politique et plus perverse, c'est de nous faire croire que le salut vient de l'Europe. Les Français, la France est un pays bloqué, une société bloquée, il n'y a rien à faire. Mais l'Europe, c'est miraculeux, elle nous apporte la solution, le salut, et grâce à l'Europe, eh bien, nous n'avons plus le monopole. Il suffirait d'être fidèle à l'Europe, d'avoir toujours plus d'Europe, de dissoudre la France dans l'Europe pour avoir notamment cette libération de cet affreux monopole. Alors, je vais quand même vous citer quelques passages du dossier réuni par le ministère des Affaires sociales, qui est en ligne sur son site, qui sont très clairs. La direction de la Sécurité sociale tient à rappeler l'obligation de cotiser à la Sécurité sociale, à la suite des nombreux articles parus dans la presse, annonçant à tort la fin du monopole. Depuis un certain temps, des voix s'élèvent pour soutenir que des textes européens imposeraient la fin du monopole français de la Sécurité sociale. Sur la base d'arguments fallacieux, ces mouvements incitent les assurés sociaux à quitter la sécurité sociale et à souscrire des assurances privées auprès d'organismes assureurs établis dans d'autres États de l'Union européenne. Ces fausses informations conduisent des personnes de bonne foi, peu au fait du droit européen, ça elles ont le droit quand même, à cesser de cotiser à la sécurité sociale, les exposant ainsi à des sanctions financières et à des poursuites pénales. Et le dossier continue, il y a tout un dossier avec beaucoup de références jurisprudentielles, notamment... il est cité l'arrêt Christian Pousset de la Cour de justice des communautés européennes. Alors, le Christian Pousset, c'est un malheureux qui s'est fait assassiner finalement et qui dirigeait la CDCAE.
Je l'ai bien connu, oui.
Confédération de défense des commerçants des artisans européens. C'était une sorte de Pierre Poujade, qui était bien mal conseillé par un autre charlatan que je ne citerai pas non plus, et qui a fait un procès. Donc, alors, en disant, l'argument était différent, ce n'était pas la circulaire de 92, la directive de 92, c'était, ah, mais Le traité de Rome, c'est la liberté de concurrence pour les entreprises, et donc les organismes de sécurité sociale sont des entreprises, donc elles ont le droit, on a le droit d'aller ailleurs. Bon, et évidemment, cet argument a été rejeté avec perte et fracas par la Cour de justice, qui a dit « Il convient de rappeler que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale. » Alors bon, les choses sont extrêmement claires. J'ajoute que la Commission européenne, finalement, en 2004, a fait un communiqué le 27 octobre 2004 pour expliquer que le bobard était un bobard et que tout cela ne tenait pas debout. Disant, à la suite d'informations erronées parues récemment dans la presse française, la Commission européenne tient à rappeler que les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale. Les informations parues récemment dans la presse, selon lesquelles Bruxelles aurait mis fin au monopole de la sécurité sociale, sont erronées. Elles se rapportent à des dispositions de la législation européenne, à savoir les directives 92, etc., qui établissent les conditions dans lesquelles des assureurs privés peuvent offrir leurs services dans un autre État membre que celui où elles ont leur siège social. Ces directives ont mis en place un marché unique de l'assurance privée, mais ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale. Autrement dit, pour les assurances complémentaires, il y a effectivement concurrence, si elles sont facultatives, ces assurances. Mais pour l'assurance maladie ou la retraite, le régime légal est obligatoire, et si on ne paye pas, alors on peut évidemment ne pas payer ses impôts. Moi, je ne dis pas que personne n'échappe à l'impôt. Seulement, si on est repéré par l'administration, eh bien, on court de gros risques. Un de mes amis surnomme l'URSSAF l'URSS à la française. Eh bien, si on ne paye pas les cotisations sociales et qu'on est repéré par l'URSSAF, on risque des sanctions extrêmement lourdes. Alors, la Commission continue en disant « Le marché des assurances complémentaires mis en place depuis 1992 n'applique donc en aucun cas le renoncement au système de protection sociale des États membres, pas plus que la modification de leur organisation. » Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir comment les charlatans réussissent à faire à propager leur bobard. Alors, je n'ai pas eu le temps d'étudier complètement leur rhétorique de désinformation, de mensonge, mais elle est quand même très... Franchement, je pense que le bobard est tellement énorme, puis dure depuis tellement longtemps, 1992. Il a contaminé tellement de milliers de gens qu'il mériterait, Serge, de figurer au guide Guinness des bobards. Enfin, des records de bobards. Alors, bien entendu, vous allez me dire, bon, il y a pire, la psychanalyse, par exemple, c'est encore pire.
Mais c'est... Oui, entre autres, oui.
Oui, mais c'est pas de même nature, parce que la psychanalyse, c'est toute une doctrine, et c'est beaucoup plus difficile de démontrer la fausseté de la psychanalyse, encore que ce soit faisable, que de démontrer la fausseté du bobard. Je vous dis, il suffit de 5 minutes. Vous prenez la directive de 92, vous voyez qu'elle se réfère à la directive de 73 pour le champ d'application, et en 5 minutes, vous avez la solution, vous savez que le bobard est un bobard. Bon, voilà. Et puis vous vous dites aussi, c'est la question la plus simple, mais attendez, si c'est vraiment vrai, bah, qu'on me cite un exemple, monsieur Jacques Dupont, qui habite à la Garenne-Colombe, et qui ne paye pas à la sécurité sociale, et qui a gagné tous ses procès contre l'URSSAF.
Je signale que c'est un nom pris au hasard. Notre ami Jacques Dupont paye bien l'URSSAF.
Oui, bien sûr. Bon, alors mettons Jacques Durand, si vous préférez, ou Albert Tartampion, de la Garenne-Colombe. Le premier procédé, c'est un procédé assez amusant. Alors, je n'ai pas cité les noms des charlatans, je vais quand même citer ce nom-là, mais c'est peut-être un pseudonyme, je n'en sais rien. Je reçois régulièrement par Internet des documents... des sophismes, mais très longs toujours, d'un certain, comment s'appelle-t-il, Philippe Brugier-Arnault, je crois, si je ne m'abuse. Et lui, il utilise systématiquement l'argument bien connu dans Molière, voilà pourquoi votre fille est muette. C'est-à-dire, vous tenez un discours d'un quart d'heure totalement incompréhensible, et à la fin, vous avez bien compris que le monopole est aboli. Alors, il envoie des directives, ou de, pas des directives, pardon, des circulaires, de je ne sais pas quelle mutuelle, etc. Alors, il y a 3 pages de circulaires. Incompréhensible, absurde. Il faudrait vraiment passer 3 heures sur le sujet pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Ça n'a évidemment rien à voir avec l'abolition du monopole, ça n'a rien à voir. Et à la fin, il dit, ah, vous avez compris, chers amis, c'est évident. Maintenant que vous avez lu ça. Alors évidemment, comme les gens... c'est très amusant. Vous n'avez jamais essayé auprès d'un de vos amis d'inventer une citation fausse d'un auteur imaginaire. Vous avez une chance sur 2 ou 2 chances sur 3 qui vous disent, ah oui, bien sûr, je la connais. Il ne voudra pas avouer qu'il ignore ce grand auteur que vous venez d'inventer. Vous venez d'inventer le nom. Mmh. Mmh. Eh bien, là, c'est la même chose. On ne veut pas avouer qu'on n'a pas compris les 3 pages de M. Brugier-Arnault. Ça n'a aucun rapport avec l'abolition du monopole. Mais un autre procédé aussi très amusant, c'est la contre-vérité péremptoire. la contre-vérité péremptoire, qui consiste à dire l'inverse de ce que les textes veulent dire. Par exemple, pour lutter contre le bobard, l'administration vient de renforcer, dans une loi de finances, les sanctions contre les auteurs de bobards. Mais à un moment donné, ça n'a pas été beaucoup appliqué, sinon on l'entendrait moins. C'est-à-dire, attention, il y a des sanctions pénales dans le code de la sécurité sociale qui atteignent ceux qui font de la propagande pour le bobard, je vous signale. Hein. Bon, ça fait partie de ces dispositions qui sont rarement appliquées. C'est peut-être dommage en l'occurrence. Et lorsque la loi a été modifiée pour renforcer les sanctions, ben j'ai vu avec... Je me dis, mais vraiment, l'impudence de ces charlatans dépasse toutes les bornes. J'ai vu un texte qui m'a été envoyé par Internet, là encore, disant, mais voyez, la preuve que nous avons raison, c'est que le texte a été modifié pour que nous puissions... alors que ce texte veut dire l'inverse. Enfin, je veux dire, on se prend la tête à deux mains. Vous avez d'autres exemples. Je reçois par exemple, toujours par Internet, un texte qui dit, oui, la Cour de justice européenne vient de reconnaître l'abolition du monopole. Elle a donné raison à une Anglaise. Alors, on regarde, alors je me suis amusé à regarder, enfin, amusé, c'est un grand mot. Alors, j'ai regardé la jurisprudence en question, l'arrêt de la Cour de justice européenne. Mais c'est absurde. La Cour de justice européenne a simplement dit qu'une Anglaise qui voulait se faire soigner en France avait le droit de se faire soigner en France. Bon, c'est tout. Il n'a jamais été dit que ça abolissait le monopole. Alors, ils jouent sur les... Parce que c'est très compliqué, tout ça. Donc, vous avez des cas limites, des problèmes dits de coordination de sécurité sociale, un Allemand qui s'installe en France, un frontalier, etc. Et alors, les charlatans jouent sur les difficultés des cas limites.
Alors, il y a une question qui est posée par beaucoup d'auditeurs. Je sais pas, une douzaine, là, vraiment. Hein. C'est... Bon, d'accord, on vous entend bien. Pourquoi n'avez-vous pas dit cela plus tôt? Parce que nous, on y a cru, on a entendu ce bobard pendant des années, et personne sur Radio Courtoisie n'est jamais intervenu pour le dénoncer, et il y a même quelqu'un qui dit, et donc à cause de ça, je me suis fait dépouiller de 250 balles par un animateur de Radio Courtoisie à l'époque. Je précise que cet animateur, c'est pas moi. J'ai jamais dépouillé personne. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas pu y arriver.
J'avais dit à Jean Ferret qu'il fallait effectivement faire attention, que c'était un bobard et que ça pouvait effectivement être gênant de laisser prospérer un tel bobard. Mais bon, n'oubliez pas quand même que... alors d'abord, Jean Ferret ne connaissait pas la question. Il n'avait pas envie de se pencher sur la question. Et n'oubliez pas que le principe de Radio Courtoisie, c'est la liberté du patron d'émission. Nous ne sommes pas là. La radio ne garantit pas que tout ce que dit Serge de Beckett, c'est vrai.
Ah bon?
Non, absolument.
Je peux dire quelque chose là,
oui. Je sais pas si ça fâche personne, ça va?
Non, ça va. C'est que les mêmes diffuseurs de bobards, mais le même diffuseur de bobards diffusait une autre chose qui n'était pas un bobard, mais qui était une analyse fausse de la situation. Et c'était les fameuses obligations des contrats d'assurance d'assurance vie, si vous vous souvenez. Et en 2003, donc, j'avais écrit à Jean Ferret, j'avais écrit à tous les patrons d'émission, à la suite de quoi j'ai été reçu ici, mais par d'autres, depuis le commandant Guillaume jusqu'à Gérard Marin, m'ont reçu. Et on a pu démonter, cette espèce de bobard qui passait sur cette même radio. Mais il est vrai que cela coûtait très cher, et c'est pour ça que j'en voulais beaucoup à ce diffuseur de bobard. C'est que
qui mentait comme un arracheur dedans.
Voilà, mais c'est que ça touchait les gens qui étaient les plus faibles. Les gens qui étaient les plus faibles, c'est-à-dire les auditeurs de Radio Courtoisie, et qui donc, parce que c'était un chef d'émission qui le disait, étaient prêts à se livrer pieds et mains liés à ce que disait cette personne. Et voilà.
Alors écoutez, j'entends ce que vous dites.
Jean-Pierre Rondeau, pardon.
J'entends ce que vous dites, Henri de l'Escalade au micro, mais... Je crois, si vous voulez, que moi je n'avais pas de raison... jusqu'à une date récente, de me mêler de beaucoup de cette affaire, n'étant pas chargé de veiller particulièrement au destin de Radio Courtoisie. Et puis aussi, je vous signale que si on veut vraiment développer l'argumentation, il faut se plonger dans... On peut, au bout de 5 minutes, savoir qu'il y a un bobard. Il y a un bobard à propos de la directive de 92. Mais ensuite... on peut toujours vous raconter des choses plus compliquées, où là, il faut se plonger dans la jurisprudence. Et donc, je crois qu'il est bon, il est plus facile maintenant d'affirmer avec totale certitude que le bobard est un total bobard parce que l'administration a bien voulu, dans sa grande sagesse, donner toute l'argumentation, et la Commission européenne elle-même a fini par... parce que le silence des autorités chargées de défendre le droit officiellement était quand même un peu inquiétant, et je trouve que il était dommage que le ministère des Affaires sociales, qui est chargé de dire le droit en la matière, ne l'ait pas dit plus tôt. Alors je ne dis pas que c'est une raison pour accepter que le législateur n'ait pas fait son travail en la matière, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il fallait quand même que les choses soient clarifiées par un dossier extrêmement complet. Et c'est seulement donc depuis moins d'un an que ce dossier est mis à la disposition du public et qu'on peut dire les choses de manière assez complète.
Alors, Henri Clesquin, il y a une deuxième question qui est posée, et vous avez 3 minutes pour y répondre, je pense que ça suffira. C'est, Monsieur Clesquin, n'est-il pas haut fonctionnaire chargé des affaires de la sécurité sociale, auquel cas n'a-t-il pas intérêt à défendre la sécurité sociale ?
Non, absolument pas. Moi, quand je suis dans mon rôle d'homme politique, là, je suis dans mon rôle de... On m'a interrogé sur la radio, mais en fait, je n'étais pas venu pour cela. Je suis venu en tant que président du Club de l'Horloge. Donc, je suis dans mon rôle d'homme politique. Et là, je défends des opinions politiques qui sont les miennes et qui sont celles du Club de l'Horloge, et absolument pas autre chose. J'ai toujours été un fonctionnaire soumis au devoir de réserve, mais lorsque je parle d'une question politique, je m'exprime en tant que citoyen, ou en tant que militant politique, si vous voulez, en tant que responsable d'un cercle de pensée politique qui s'appelle le Club de l'Horloge. Et donc mes obligations professionnelles, quelles qu'elles soient, n'ont jamais eu le moindre rapport avec mes positions politiques. Et je vais vous dire simplement une chose, si j'étais ce qu'on croit que je suis, apparemment, je ne dirais pas de mal de Sarkozy, parce que je vous signale que Sarkozy, c'est quand même, étant fonctionnaire, c'est quand même mon lointain patron dans la stratosphère de l'administration, puisque c'est le président de la République depuis quelques jours. Mais rassurez-vous, je n'ai pas l'intention d'en dire du bien, parce qu'il est à la tête de l'État. Donc j'ai effectivement... depuis quelque temps, des responsabilités, non pas en matière de législation sociale, mais je m'occupe d'un organisme compétent en matière d'assurance sociale pour les militaires, mais qui n'a strictement aucune compétence en matière de législation. Donc je peux vous assurer que mes intérêts de fonctionnaire ne sont absolument... Même s'il l'était, je passerai outre, mais de plus, mes intérêts de fonctionnaire ne sont absolument pas en cause. Et je dois dire d'ailleurs que le communiqué que nous avons publié au Club de l'Horloge a été fait par un certain François d'Orgeville. C'est le pseudonyme d'un fonctionnaire du ministère des Affaires sociales qui, lui, est compétent en la matière, mais qui spécialise la matière, plus précisément, qui ne peut pas s'exprimer sous son vrai nom parce qu'il est au ministère des Affaires sociales, mais qui, en l'occurrence, a d'autant moins de raisons de s'exprimer qu'il commence par affirmer qu'il est pour l'abolition des monopoles. Et il suffit de dire cela, si vous voulez. Si on exprime le point de vue... Si je parlais ici en tant que représentant du ministère des Affaires sociales ou du ministère des Finances, je vous dirais, le gouvernement est attaché au principe de solidarité, etc.
Il faudrait bien en uniforme. Alors.
Et donc nous défendons... D'ailleurs, c'est ce que dit, je vous signale, c'est ce que dit le dossier du ministère. C'est la phrase suivante. Avec cette entreprise de désinformation... Ces mouvements cherchent à favoriser le remplacement d'un système solidaire de sécurité sociale par la mise en place d'un système de libre choix d'assurance maladie avec tarification individualisée. Et là, le Club de l'Horloge répond, le Club de l'Horloge partage les intentions que le ministère prête à ces mouvements, entre guillemets, qu'il accuse de pratiquer la désinformation, car le Club de l'Horloge souhaite ardemment lui aussi, vous voyez les guillemets, la mise en place d'un système de libre choix d'assurance privée. Mais il n'a jamais laissé à croire pour sa part que le monopole de la sécurité sociale avait été aboli. Il est persuadé que le combat pour la liberté doit être fondé sur des arguments sérieux. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ceux qui vous racontent ce bobard ne sont pas sérieux. Ce sont des charlatans, mais des charlatans qui sont extrêmement doués. C'est pour ça que je parlais du guide Guinness des records, parce qu'ils ont un talent pour mentir qui est fabuleux. D'abord, ils parlent très bien, ils ont du bagou, ils ont de la dialectique, et ils ont une impudence dans la charlatanerie qui dépasse toute mesure.
Merci Henri Clesquin. Alors pour conclure, je dirais que moi je suis absolument favorable au maintien du monopole de la sécurité sociale pour des raisons que j'expliquerai si on me le demande poliment. Merci, à bientôt.
C'est une blague.
Non, c'est sérieux.
Alors, expliquez-le maintenant alors.
Ah ben non, il reste 20 secondes. C'est pas sérieux.
Il le fera juste après.
Non, je le ferai une autre fois. Dans une autre commission, on en débattra.
Non, mais vous êtes d'accord que c'est un bobard quand même l'abolition au niveau du monopole.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un bobard, mais je m'en félicite. Que ce soit un bobard.
Ah, bah, pas moi. Je ne me félicite pas que ce soit l'Europe qui soit mise en cause, enfin qui soit...
On en reparlera.
Honoré dans cette affaire.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 21h30, vous pourrez suivre en direct le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau, entre 21h30 et 23h30. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 juin 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Voilà, c'est nous de nouveau. Je voudrais donc signaler qu'un monsieur, un auditeur, a envoyé un message en disant qu'il exigeait un droit de réponse. Je me porte à sa connaissance Le fait est pourtant connu que le droit de réponse obéit à certaines règles de droit et que dans la mesure où il respecte ses règles de droit, il aura son droit de réponse. Mais je ne peux pas accéder à sa demande avant que le droit ait été appliqué dans toute sa rigueur. Voilà. Mon cher François Rabat, je vous salue donc encore une fois et je salue votre magnifique bronzage.
Vraiment. Merci, voilà. C'est vrai, oui.
J'ai peur d'attraper un coup de soleil et force de le regarder.
Je suis toujours habillé à la ville comme à l'écran par mes parents,
par vos parents.
Selon la formule consacrée. Peut-être un moyen de résorber le trou, le véritable déficit de la sécurité sociale, puisque la télévision française, vous savez qu'il y a quelques émissions culinaires sur nos chaînes, et que maintenant, on a décidé d'apprendre aux Français à mieux manger, en s'amusant. Il est grand temps, parce que peut-être qu'on pourrait incorporer tout cela dans des programmes scolaires. Ça n'a jamais été vraiment le cas. On avait évoqué le fait que les cours d'art ménager avaient été supprimés et que même si les messieurs que nous sommes, on nous avait appris à cuire un beefsteak, ça nous aurait évité d'en bousiller quelques-uns en utilisant des produits adaptés. Surtout que le matériel a fait d'énormes progrès. On a maintenant des poêles anti-adhésives, il y a des fours multifonctions, enfin il y a plein de choses. Donc il y a une nouvelle émission qui a démarré avec l'incontournable Daniel Lalombroso, qui anime des émissions de variété à grand spectacle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Et donc, cette émission s'appelle maintenant « C'est trop bon », comme si les choses pouvaient être trop bonnes.
Et c'est trop à la mode. Ça.
C'est complètement à la mode. On est complètement dans cette mode. Et il y a un nutritionniste qui donne son grain de sel et qui donne des ordres aux cuisiniers. Donc maintenant, si on regarde cette émission, qui est assez pénible, je dois le dire, je l'ai regardée, c'est assez compliqué, étant donné que cette dame touche à tout, moi personnellement je ne la connais pas, elle est plutôt jolie, agréable à regarder, mais elle est au sein d'une polémique violente parce qu'elle a écrit également un livre sur François Dolto, qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Elle a simplement lu François Dolto, comme des millions de lecteurs. Donc elle s'occupe de maigritude, elle s'occupe de nutrition, elle s'occupe de plein de choses.
Elle est peut-être un peu journaliste, qui expliquerait qu'elle s'occupe de choses diverses auxquelles elle ne connaît rien.
Elle revendique son titre d'animatrice. Elle a parfaitement raison. Je vous signale qu'il y avait une émission sur la maigritude aussi sur M6. Et le docteur Jean-Michel Cohen, qui est un nutritionniste reconnu, qui met son grain de sel partout, avait essayé de faire maigrir un colosse qui vend des truffes dans le Vaucluse de 140 kilos. Non, il n'est pas mort, il tient la route. Il était boulimique, il mangeait absolument à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça s'est un peu arrangé. Et donc voilà, c'est dans l'air, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors j'ai décidé éventuellement pour que nos auditeurs profitent de nos
précieux conseils. Donc il n'y a pas qu'au gouvernement qu'il y a des maigres.
Non, il n'y a pas qu'au gouvernement. Et on va aider nos amis auditeurs et auditrices à maigrir. Donc je vais décider, j'ai décidé avec votre autorisation, j'achète des échantillons, je reçois quelques échantillons et on me dit miracle, c'est formidable, je viens de recevoir la purée d'artichaut à la nette créaline. C'est une purée de saison car tout le monde sait que l'artichaut, il y a des saisons particulières, on le trouve toute l'année. Peu importe, il n'y a pas de baisse de prix. Donc cette marque créaline.
Et comme disait Coluche, l'artichaut, c'est un légume de pauvre.
C'est un plat pauvre, étant donné qu'il y en a plus après qu'avant.
C'est ça.
Si vous n'êtes pas d'accord, Victoria, vous nous le dites. Vous avez déjà mangé de l'artichaut.
Elle n'est pas pauvre.
Et constaté qu'il y avait beaucoup plus de volume de ce produit merveilleux qu'est l'artichaut dans votre assiette après qu'avant.
Oui, c'est vrai.
Et ben voilà.
Mais moi, il n'y en a jamais dans mon assiette parce qu'il me donne des migraines.
Je suis ravi de l'apprendre et évitez donc de manger des artichauts. Mais dans cette purée d'artichaut, il n'y a pas que de l'artichaut. Il y a 50% d'artichauts. Parce qu'on ne lit pas les petites étiquettes qui sont derrière et obligatoires. Et elles sont très intéressantes parce qu'on va apprendre qu'il y a du lait demi-écrémé, des pommes de terre. Est-ce que vous mettez des pommes de terre dans votre purée d'artichaut?
Généralement, non.
Eh bien, voilà. De la fécule de manioc.
Ouais, non.
des protéines de lait.
C'est pour ça que c'est maigre alors.
Du sel, du sucre, de la nette à 0,4%, du jus de citron concentré et éventuellement on peut trouver, si on a de la chance, des traces de céleri et de noisettes. Moi ça m'a fait mourir de rire, c'est un sketch parce que je n'invente rien, l'emballage est là. Je n'ai pas osé vous apporter la purée parce qu'on a autre chose à faire. Il faut pas retarder l'information. Mais c'est formidable parce que on m'explique également que, en se basant sur une recette traditionnelle, Créaline a su donner à sa purée d'artichaut tout le fondant et la saveur d'une purée moulinée façon presse-légumes. Façon presse-légumes, c'est déjà très beau dans le texte. En cuisinant ces purées sans additifs ni conservateurs et avec des légumes cuits à la vapeur,
les meilleurs.
On peut cuire à la vapeur facilement. Vous achetez ce qu'on appelle un couscoussier. Ça se vend depuis très longtemps et c'est très pratique. Donc voilà, je vous dis pas tout ce que ça représente. Les protéines, il y en a pas beaucoup. Les glucides, il y en a un peu plus, ce qui est tout à fait normal. Mais on se moque quand même un peu du monde dans la mesure où on attire le chaland ou la chalante. Je sais pas si j'ai le droit d'employer ce féminin. En leur vendant de la purée d'artichaut avec 50%
de pommes de terre
à l'intérieur.
Et voilà. De la farine de manioc.
Je vais vous parler
c'est
de...
pour ça que
le manioc,
c'est pour les maigres, le manioc.
Le manioc, c'est pour les maigres. Ça fait maigrir. C'est pour la maigritude.
Pour la maigritude.
Rien à voir.
Manioc, c'est un bon médicament.
Là, un menu formidable. Je vais encore vous parler de Paul Bocuse. Je le fais pas exprès, mais il y a un jeune chef qui a été récompensé et qui a fêté sa 3e étoile Michelin chez Paul Bocuse. Alors, il a invité toute sa brigade, c'était très sympa. Je vous donne rapidement le menu. Écrevisses à la nage au pouilly fuissé, tête de veau sur os, sauce gribiche, loup en croûte feuilletée, sauce choron, on peut toujours rêver, granité des vignerons du Beaujolais, quasi de veau et son rognon en cocotte staube, enfin bon, hein, épinards frais, fernand point, gratin de macaroni, sélection de fromage de la célèbre mère Richard de Lyon, coupe Pavarotti, petit four chocolat. Alors Paul Bocuse a envoyé à tous les journalistes la photo de toute cette jolie et belle brigade et il a joint un petit mot, moi ça m'a fait mourir de rire, malheureusement vous ne verrez pas cette photo, mais elle est sûrement, elle va paraître dans pas mal de journaux, je le souhaite. Il a mis un petit mot, avec beaucoup d'humour, un menu comme en 1950, à l'époque où les chefs exécutifs, c'est-à-dire le chef de cuisine, avant il était chef de cuisine, maintenant il est chef exécutif, ça ne veut pas dire qu'il flingue les clients, bien au contraire, il est le chef de la brigade. C'était l'époque merveilleuse où les chefs portaient une toque et faisaient une cuisine identifiable avec des os ou des os et des arêtes. Signé Paul Bocuse, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Il y a un maigre sur la photo d'ailleurs.
Et non, ils sont tous...
Il y a un maigre en costume de...
Ils sont tous jeunes et fringants. Je vous donne une petite adresse qui est, on en avait parlé mais on l'avait un peu escamoté, c'est dans le 15e arrondissement près de la rue de Vaugirard, ça s'appelle le Bélissaire. J'ai ouvert mon dictionnaire et c'est un monsieur qui vers l'an 500 sous Justinien a reconquis, a battu les Vandales en Afrique, en Sicile et en Italie.
Bélissaire, reviens, on a besoin de toi.
Alors, le chef du Bélissaire, c'est un jeune Breton qui s'appelle Mathieu Garel. Et il fait des choses très simples, avec un menu au déjeuner à 20 euros. C'est tout à fait raisonnable. Je parle de ce déjeuner hors boisson. C'est à vous de choisir. Hein. Moi, je ne vais pas vous imposer de dire « allez là manger ça » parce qu'il y a trop de confrères qui le font malheureusement d'une manière quotidienne et c'est assez pénible. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge ?
Oui, oui. Moi,
On a quand même l'embarras du choix.
Voilà,
si on va au restaurant, c'est pour se faire plaisir. Que les rapports, le rapport qualité-prix soit tout à fait acceptable. Donc, il est un spécialiste du risotto préparé à la commande. Il y en a partout, mais celui-là est...
Ah non, non, mais moi, il faut que j'y aille, parce que le risotto, c'est...
Vous aimez pas le risotto ?
Si, j'adore ça, j'en suis fou.
Voilà.
Je me nourrirai de risotto matin, midi et soir.
Et il fait aussi de la polenta crémeuse, qui est excellente. Voilà.
Et à pour, boulain,
alors, le samedi soir, il y a un menu dégustation à 40 euros. Alors, je vais vous donner l'adresse, c'est 2 rue
Marmontel. Peut nourrir, donc on peut y aller à 1000 pour le prix du dîner que vous nous aviez raconté la dernière fois. Vous vous souvenez, le dîner pour 12 personnes au champagne à 40 000 euros.
Nos amis, j'ai toujours pas reçu
d'invitation,
la moindre bouteille de Dom Pérignon, mais enfin, c'était si vous m'appelez, je vous communiquerai mon adresse.
Sans boucher.
C'est 2 rue Marmontel, 75 015 Paris, donc dans le quartier Vaugirard. Le téléphone, 01 48 28 62 24.
Le Bélisère.
Le Bélisère. Vous
pouvez peut-être aller un petit peu plus vite.
Je peux m'entraîner à aller beaucoup plus vite. J'ai des confrères qui vous commentent les matchs de rugby. Alors, je vais vous dire que c'est 2 rue Marmontel, Paris 15e, 75 0015. Le téléphone est le 01 48 28 62 24. Victoria,
très bien, vous aurez
pour vous gérer de plus en plus lentement.
C'est très bien, c'est surtout pour mes auditeurs.
Merci François Robotte. Eh bien, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, je crois, où vous nous ferez découvrir encore quelques bonnes adresses, quelques bons produits, peut-être une purée de, je sais pas, de quoi, de poireaux cette fois-ci, poireaux pommes de terre.
Une purée de nouilles au riz avec des haricots. Non, mais soyez vigilants, il y a peu de gens qui vous le disent, mais regardez bien avant d'acheter, parce que vous allez découvrir que vous avez 50 pour. Mais on peut peut-être couper la poire en deux, à défaut de couper l'artichaut en deux.
Merci bien. Vous vouliez nous raconter quelque chose, vous, mon cher Jean-Pierre Rondeau.
Je sais pas, vous m'aviez demandé de travailler sur la TVA sociale.
Bien sûr, je demandais de travailler sur la TVA sociale.
En fait, vous m'avez demandé surtout d'expliquer simplement, parce que vous ne compreniez pas le...
Donc, nous sommes tout oui, comme disait le poisson.
Bon, disons que sur un prix de, sur le prix de vente de d'un bien quelconque, qu'on va dire à 100, on a 10 qui servent, alors ce sont des chiffres qui, les proportions n'ont rien à voir, hein, mais c'est pour prendre un exemple, on a 10 qui servent de pour assurer des paiements de couverture sociale. Donc vous avez 100 moins 10, vous avez 90. Donc vous allez retirer à 100, donc au prix de vente, vous allez enlever cette couverture sociale à l'entreprise, c'est plus elle qui va la payer, et donc elle, son coût, son prix de vente va descendre à 90. Donc à partir de là, votre société va avoir un produit qui est plus compétitif puisqu'il est à 100 sur il était à 100 et qu'il est aujourd'hui à 90. Et donc cette société va pouvoir théoriquement beaucoup plus exporter. Donc elle va alléger et devenir compétitive à l'exportation. Et théoriquement, on va freiner les délocalisations puisque l'entreprise étant plus compétitive en France, elle n'a peut-être plus besoin de se délocaliser. En échange, vous allez derrière faire payer une TVA, donc de 10 aux consommateurs. Donc les 90, on va rajouter 10 et le consommateur va payer 100, ce qu'il payait auparavant. Donc il va payer le même prix. Alors, on peut vérifier quelques craintes quand même, c'est que ça risque effectivement d'augmenter et ça a été un argument des socialistes, c'est d'augmenter les prélèvements sociaux. C'est-à-dire que pour que les prélèvements sociaux n'augmentent pas, il faudra que l'entreprise joue le jeu et baisse réellement le prix de 100 qui lui coûte toujours de 100 à 90. Donc on a aussi un risque sur la hausse des prix et on a un risque aussi sur le pouvoir d'achat donc des ménages. On fait payer tout le monde à ce moment-là. On fait payer les inactifs qui ne payaient pas à travers les charges sociales de l'entreprise. On fait payer les faibles revenus. On fait payer donc tout le monde et pas seulement les travailleurs. Dernier point, donc le Danemark a exercé depuis 20 ans cette TVA sociale. L'Allemagne vient d'y passer en 2007. Voilà ce que l'on peut dire à peu près de...
Le deuxième argument me paraît quand même spécialement fallacieux. C'est l'argument de la gauche qui dit la TVA est un impôt injuste parce qu'elle frappe les pauvres comme les riches. Mais c'est totalement imbécile, c'est pas vrai.
Non, elle frappe tous les consommateurs.
Oui, par définition, les riches consomment plus que les pauvres, donc ils payent plus. Enfin, tout ça est idiot. Un pauvre, il n'achètera pas 12 kilos de caviar pour Noël. Donc il va que la TVA sur le caviar soit à 50% ou à 2000%, il s'en fout.
Absolument.
Tout. Donc, il n'en mangera pas plus ni moins. Et un pauvre, quand il achète une voiture, il achète une voiture de pauvre, il n'achète pas une voiture de riche. Donc
c'est pour ça que moi-même, je suis assez favorable à cette TVA sociale, sachant qu'elle ne réglera que peu de problèmes. D'abord parce qu'il faudra que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises jouent le jeu et récupèrent dans leur prix la diminution des charges sociales qu'elles auront. Et donc, est-ce qu'elles auront et elles joueront tout le jeu, mais néanmoins c'est une forme effectivement de compétitivité. On fait payer tout le monde, on fait payer toutes les importations, et donc les pays qui eux n'ont pas ces charges sociales Ceci étant, ça ne règle pas tous les problèmes, puisque dans le coût, dans la compétitivité, existe le coût du travail de lui-même, le coût de la main-d'œuvre. Et la Chine, par exemple, restera avec un coût de main-d'œuvre bien moins important que on paye moins, sans parler des charges sociales, on paye moins un travailleur chinois qu'un travailleur français. Mais néanmoins, bon, c'est une forme aujourd'hui de. Alors, j'ai entendu sur cette radio et notamment l'émission d'Henri de Lesquen que c'était quelque chose de protectionniste, oui, et d'anti-libéral. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le libéralisme ne doit pas être le libertarisme et la liberté à tout prix. Et donc aujourd'hui, on le sait, on est concurrencé par des pays.
Mais en plus, bon, ça c'est un débat qui nous éloigne du sujet, mais j'espère qu'on en parlera un jour avec Pierre Hillard et Michel Blanza. L'imposture du libéralisme, il faudra quand même y mettre un terme un jour. Le libéralisme, c'est un moyen d'enrichir. Alors là, pour le coup, d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. C'est absolument évident. Quand on vous dit il faut libéraliser ou libérer toutes les activités humaines, moi je veux bien, mais le résultat, on voit ce que ça donne. Par exemple, dans un pays comme à l'heure actuelle, la Chine, par exemple, à partir du 1er janvier prochain, va pouvoir importer absolument ce qu'elle veut, puisque c'est la fin des quotas. Donc on va être littéralement enseveli sous les produits chinois, et ça va faire crever des centaines d'entreprises en France, c'est certain. D'autre part, on voit ce que donne le libéralisme. Quand on sait que, par exemple, avant-guerre et dans l'immédiat après-guerre, on est allé chercher de la main-d'œuvre en Pologne pour exploiter les mines en France. Donc, ces gens-là sont venus en France, ça appauvrit considérablement la Pologne en bras, et sur le plan démographique. Ils sont venus travailler en France. En France, ils ont fait souche et ils se sont installés. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui ont travaillé dans les entreprises du Nord. Aujourd'hui, on prend ces entreprises du Nord, on les expatrie, on les renvoie en Pologne et on dit aux descendants des ouvriers polonais, des mineurs polonais qui étaient venus en France pour exploiter les mines, vous allez retourner en Pologne pour travailler. Pendant 3 ans, on va vous payer comme en France et 3 ans après, on va vous payer comme en Pologne. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? C'est des esclavagistes, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder à nous raconter des histoires de nègres qui se sont passées il y a 3 siècles parce qu'on prenait des nègres en Afrique et qu'on les emmenait en Amérique et qu'on était des assassins? Et là, ils veulent prendre des Français blancs dans les départements du Nord pour les envoyer crever en Pologne avec des salaires 3 fois inférieurs à ce qu'ils touchent ici. Mais c'est intolérable. C'est tout simplement intolérable. Et qui sont ces gens-là? Enfin, c'est pas la peine de gratter beaucoup pour voir d'où ils sortent, hein. C'est toujours les mêmes. C'est cette espèce de racaille mondialiste apatride qui passe son temps à déplacer les hommes comme des pions, les entreprises comme des pions, et à faire du fric avec ce qui rentre, avec ce qui sort, etc. Donc effectivement, si tant est que la TVA sociale puisse au moins essayer de récupérer un tout petit peu de ce fric,
un petit peu, voilà.
Tant mieux. Si ça a fait crever ces gros prédateurs, tant mieux qu'ils crèvent.
Non, ça va arranger les entreprises puisqu'elles vont avoir des charges.
Pas des entreprises, je parle des fonds de pension, je parle des spéculateurs, je parle de tous les trafiquants de fric,
c'est pas la TVA
les oligarques et compagnie, qui achètent des sociétés, qui les liquident, qui les trimballent d'un bout à l'autre de la planète pour essayer d'exploiter au mieux. Je sais plus si c'est en Birmanie ou en Thaïlande, là, la décision vient d'être prise par un gouvernement pourri, d'ordures, de vendus, de réduire de 70% les salaires des ouvriers du textile pour le rendre plus concurrentiel. Mais où on va?
Je vais vous donner un chiffre. Vous savez que je suis vice-président de la branche française d'une organisation internationale de certification de conseil en gestion de patrimoine. En 2005, on recensait 100 000 millionnaires en dollars en Chine. En 2007, on en recense 17 millions. Et vraisemblablement 18. Et aujourd'hui, des conseillers en gestion de patrimoine, la Chine vient d'adhérer à cette organisation internationale, en nous faisant passer donc un examen, hein. Ils en font passer 10 000 cette année. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 50 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et il y en a un peu plus de 50 000 dans tout le reste du monde. Et donc les Chinois en font passer 10 000 dès cette année. Voilà.
Oui, mais il faut savoir comment la Chine, bon, c'est tout simplement le pays qui a officialisé la mafia comme système de gouvernement. C'est tout, c'est pas autre chose. C'est des mafieux. C'est des mafieux du pouvoir qui ont transformé leur pouvoir politique en pouvoir économique en exploitant les malheureux chinois comme les mafieux exploitent les putes, les serveuses de bar et les drogués. C'est exactement la même chose. C'est, le système est le même. C'est un système totalement mafieux. C'est ça qui est intolérable dans le libéralisme, c'est que ça conduit obligatoirement à transformer les sociétés en sociétés mafieuses. Bon, alors je veux bien que les gens comme Garello et tout soient inspirés par les meilleurs sentiments du monde, mais on revoit le résultat. On voit exactement le résultat de ce qui se passe. J'ai envoyé à un de ces libéraux, là, le texte qui annonçait ce que je vous dis, la réduction de 70% des salaires des ouvriers du textile dans je ne sais quel pays d'Asie. Il m'a répondu, mais ça n'a aucune importance. Ça fait des années que je dis qu'il faut supprimer les lois sociales en France pour régler le problème du textile. Oui, évidemment. En supprimant les lois sociales, on va régler tous les problèmes. Ça, c'est comme en supprimant
les
assurés sociaux, il n'y a plus de maladies, hein. C'est sûr, si vous laissez les gens crever, la sécurité sociale va faire des économies formidables. Enfin.
Il y avait 4 points, excusez-moi, mais je voudrais terminer. 4 points, donc, au Conseil des ministres, quand je suis parti de mon bureau, on n'avait pas encore le compte-rendu, mais bon, il y a la suppression, pas la suppression du tout, mais les heures supplémentaires, donc, qui étaient au bout du jour.
Défiscalisation, oui.
Il y a la suppression des niches fiscales, vraisemblablement, donc, certaines défiscalisations de...
Les lunetiers des Vosges vont enfin payer les mêmes impôts que les autres.
Les niches fiscales, c'est la volonté, donc, de Sarkozy. Mais il y a surtout, il y a aussi la suppression des donations de stock options. C'est pour les salariés, les cadres supérieurs donc d'entreprise, sachant que finalement l'effet ne sera pas rétroactif. Donc il y avait un bouillonnement depuis quelques semaines et les notaires se précipitaient pour faire des donations de stock options qui permettaient d'éviter donc la plus-value en transmettant immédiatement à ses enfants. Et par contre, dernier point qui va, à mon avis, être une révolution, donc c'est et ça sera voté vraisemblablement en juillet, c'est la donation entre époux, donc qui ne va plus subir de droit de succession. Et celle aux enfants qui devrait être exonérée jusqu'à 150 000 euros, donc 1 million de francs, et qui vont notamment transformer beaucoup l'appréciation. Alors ne vous précipitez pas à mon bureau pour me demander conseil, mais qui vont beaucoup transformer certainement l'appréciation de certains contrats d'assurance. Il faudra vérifier au cas par cas le système, le régime matrimonial des gens, comment ils ont rédigé leurs clauses bénéficiaires, etc. Mais c'est une grande...
Ça sent l'usine à gaz, tout ça.
C'est une grande révolution.
Ouais. Voilà. Merci Jean-Pierre Rondeau.
J'ai deux, trois messages. Si cette TVA sociale était appliquée, tous ceux qui bénéficient de la CMU cotiseraient un peu. Ce n'est pas négligeable.
Oui, absolument.
Et puis, c'est bien le libéralisme qui a tué l'artisanat du cycle français.
Mais évidemment, pas seulement du cycle, l'artisanat français en général.
Mais rappelez-vous, nous dit cette auditrice, il y a quelques années, on avait une TVA à 33% sur les produits de luxe, les disques, etc. Ouais. Personne ne disait rien. Et un autre propose, TVA sociale égale suppression de la CSG et de la CRDS.
Non, il y a un principe en France, c'est qu'un impôt qui existe n'est jamais supprimé. Ça, de toute façon, ne rêvez pas, ça n'arrivera pas. Ils ne sont pas fous quand même. Il faut bien qu'ils se graissent.
À propos de la TVA sociale, que deviennent donc les contributions sociales de Michel Rocard? Il y a un grand silence.
Oui, non, mais
personne
ne
sait.
Je sais même pas de quoi ça cause.
Oui, non, mais c'est les contributions sociales dont on parlait. Donc, voilà.
Oui. Il n'y a pas que ce problème de sécurité sociale, mais on a dit aussi qu'on risquait fort de perdre tous les fonds investis en obligations d'État. Quelle est la situation actuellement quant au risque de déficit vertigineux de l'État?
Écoutez, ça fait partie du bobard que je dénonçais tout à l'heure et que j'ai dénoncé sur Radio Courtoisie dès 2003. Les personnes qui veulent avoir
une réponse, m'écrivent et je leur adresserai la lettre que j'ai fait à Jean Ferré à l'époque et à tous les chefs d'émission en 2003 et une ou deux annexes que j'ai rajoutées depuis. Voilà.
Bien, mais alors.
Vous écrivez-vous
Oui, Jean-Pierre Rondeau, Mégara Finance, AMEGARA, Finance au singulier, 9 Place de la Madeleine, 75 008 Paris. Et mon email, c'est JP Rondeau.
T'allais pas si vite, bon sang. JP Rondeau. Oh, vous êtes insupportable.
C'est pas une raison pour dire le nom du Seigneur.
Mais non.
Arrobase.
JP Rondeau. Arrobase.
Mégara Finance en un seul mot, sans S.
Mégara
Finance.
Ah, je vous jure, on n'est pas noté.
Ah, l'institut, elle est parfaite.
Finance.
Mégara.
Sans et S. Quand j'ai écrit Mégara Finance sans
point
S.
.fr.
.fr.
Et mon téléphone, 01.
Oui.
44 51 62 20.
Voilà, c'est parfait.
On voit ça, un tableau dans le studio. Je vous vois bien avec un tableau et des craies roses, vertes, jaunes, blanches.
Rose, pas beaucoup, pas beaucoup. Non. Un petit
moi,
peu,
je verrais bien
trop.
Avec une baguette et nous taper
dessus. Oui, taper dessus, elle
aimerait ça. Sur les têtes directement avec la main.
Alors maintenant, pour vous remercier, Jean-Pierre, je n'ai pas compris ce que M. Rondeau a dit sur les stocks options des cadres. Je n'ai rien compris, redite et expliquée.
Ah
bon, on pourra faire ça un autre jour peut-être, non?
Une autre fois.
Il y a deux choses. Quand une société donne des stock options à ses cadres supérieurs en général, déjà, elle pouvait proposer un abattement, c'est-à-dire sur la valeur de l'action en bourse, elle pouvait proposer un prix réduit. Ça, normal, ça va être supprimé normalement. Mais aussi, quand on vous donne une action, et au moment où ensuite vous allez la lever, vous avez un droit de la lever, de l'acheter. On vous donne un droit, mais vous devez la lever quelques temps après. Au moment où vous la levez, théoriquement, il y a une plus-value. Et sur cette plus-value, vous avez un impôt à payer. Et à cet impôt, vous y échappiez en levant le titre et en le donnant immédiatement à vos enfants. Et là aussi, ça va être supprimé. On pensait donc que ça serait supprimé pour tous les stocks options existants. Ça ne va être supprimé que pour les stocks options qui seront mis en place par les sociétés dans les années, dans les mois et à venir.
C'est bon pour nous, ça?
On s'en fout.
On s'en fout. Voilà,
moi, Mégara Finance ne donne pas.
C'est bien ce que je pense.
De stock options à son cadre.
Moi, je dis le Libre Journal ne donne pas de stock options non plus. Donc, comme ça, on s'en tape absolument.
Non, pour quelques-uns de mes clients, c'est très intéressant quand même.
Serge, est-ce que je peux lire les 5 petites annonces? Comme ça, on courra pas à la fin de l'émission.
Oui, mais vite, parce que je sens que Pierre Argouache, il commence me menacer du doigt, du regard.
Rappelons.
D'excommunication.
Rappelons. Que le jeudi 21 juin à 10h30, c'est-à-dire demain, devant la 7e chambre 4 du tribunal de grande instance de Pontoise, 3 rue Victor Hugo à Pontoise, donc, Alexandre Simoneau comparaîtra pour avoir déchiré un préservatif géant installé par le maire sur l'obélisque de cette ville. Il vous demande de venir en grand nombre le soutenir dans son combat. Bon. Vendredi non, c'est pas celui-là. De la part de Michel de... Non, c'est pas ça non plus. Excusez-moi, hein, c'est un petit peu gribouillé. Cercle Renaissance rappelle sa fête de la musique, soirée récréative ouverte aux auditeurs de Radio Courtoisie. Il s'agit d'un dîner amical accompagné de chants traditionnels sur le thème « La vigne et le vin » avec la participation du chœur Montjoie-Saint-Denis. Le jeudi 21 juin de 19h30 à 23h, à proximité immédiate du siège de Cercle Renaissance, au local situé dans la cour du 134 rue de Tocqueville dans le 17e. Tous les renseignements au 01 42 27 48 22. Je répète, 01 42 27 48 22.
Je veux dire que je regrette de ne pas pouvoir aller à cette soirée parce que je voudrais voir ce que va donner la rencontre entre la clientèle élégante, distinguée du Club Renaissance nos amis du Club Cœur Montjoie qui sont quand même un petit peu plus bruts de décoffrage, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais non.
Non, mais alors... ça peut être extrêmement sympathique. Il peut y avoir des rencontres inattendues.
Vendredi prochain, 22 juin, de 14h30 à 17h30, le père Argouache, que vous allez entendre bientôt, dédicacera Rio, Mont, Passion et Résurrection. Et samedi prochain, 23 juin, de 15h à 18h30, Louis de Condé dédicacera ses poèmes à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Conférence de Catherine Rouvier au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, le mardi 26 juin à 20h, sur le bouleversement par la planète Internet. Et enfin, Anne Brassier et la mairie d'Orange vous invitent à lire sous les oliviers le dimanche 8 juillet de 16h à 22h sur la colline d'Orange dans le Vaucluse. Alors, je ne cite pas tout le monde parce qu'on n'a pas le temps.
Non, voilà. Mais le cœur, il y a plein de monde formidable.
Mais le cœur y est. J'ai tout dit.
Non, le cœur, moi, je ne voyais pas.
Ah ben non.
Bon. Est-ce qu'on pourrait dire, même si vous êtes très pressé, un petit mot, parce qu'on parle de Louis de Condé, peut-être que certaines personnes ne savent pas qui c'est. Louis de Condé était un des héros de l'Algérie française, un des héros de l'OAS. Ses poèmes, il les a écrits en prison, un petit peu comme Brasillac les a écrits à Fresnes.
C'est un homme
qui a eu une vie extraordinaire, d'un grand courage, qui a été plus ou moins médecin en Afghanistan, en fait, qui s'est battu sur tous les endroits de la planète. Et quand vous voyez cet homme, c'est un petit bonhomme, extrêmement distingué, pratiquant le baisement, personne n'imaginerait, et c'est un homme d'un courage extraordinaire, qui avait même à l'époque fabriqué un appareil à photo pour tuer lui-même le général de Gaulle. Et dans l'appareil, il avait mis un petit pistolet. Malheureusement, il ne trouvait personne pour mettre du cyanure sur ses balles. Alors, pour prouver aux gens de l'OAS qu'il aurait pu le tuer, il s'est placé face à de Gaulle avec son appareil et il a pris une photo plutôt que de tirer. Il a dit, voyez, si vous aviez su me donner mon cyanure, il serait mort aujourd'hui.
C'est horrible.
Voilà. C'est pas horrible. C'était un combat contre une immonde crapule et qui a coûté beaucoup de morts chez nous, et parfois le régicide, dans ce cas-là, était justifié. D'ailleurs, c'était le mot de régicide, c'était quand même pas un roi. D'ailleurs.
Il a une librairie extraordinaire de livres anciens à Vichy, d'ailleurs.
Exactement. C'est un homme très cultivé également.
Il a une librairie.
Ah oui, magnifique.
Ses poèmes sont magnifiques, et puis c'est l'authentique tout de même, parce qu'il a vraiment été en prison, il a vraiment souffert. C'est pas un histrion qui a envie de faire des poèmes pour faire un peu d'argent.
Je peux juste dire que le 5 juillet, l'association Allo des anciens du lycée La Mauricière d'Oran a obtenu à nouveau le droit de raviver la flamme pour les disparus du 5 juillet à Oran. Et donc j'invite à partir de 18h, sachant que la cérémonie est à 18h30, à vous réunir. On a besoin de vous, parce qu'on espère que cette fois-ci, la cérémonie ne sera pas interdite.
À ce propos d'ailleurs, le 6 juin 2007, la stèle érigée au cimetière nord de Perpignan à la mémoire des martyrs de l'Algérie française a été profanée. Le personnage allégorique représenté sur cette stèle a été aspergé de peinture rouge. Pour nous, Français d'Algérie, écrit Joseph Attab Pacha, président de Veritas.
Je suis le délégué Île-de-France de Veritas maintenant.
Cette stèle et quelques autres représentent les derniers lieux du culte de nos morts, dont les tombes en Algérie ont été violées, fracassées et profanées. Même les monuments aux morts qui portaient inscription des noms de nos parents et amis morts pour la France ont été en Algérie détruits ou engloutis sous le béton, comme celui d'Alger. Tous les hommes politiques français qui se sont rendus en Algérie ont été se recueillir et déposer une gerbe au monument des martyrs de l'Algérie algérienne. En France, le pouvoir en place cautionne nos persécuteurs, LCR, MRAP, LDH et autres, et nous interdit de fleurir les derniers mausolées qui nous restent. De plus, nous constatons que le moindre tag dans n'importe quel petit cimetière de province est commenté avec indignation par la presse écrite et télévisuelle. Quel organisme d'information fera état de la profanation de notre stèle de Perpignan, laquelle nous a tous atteints en plein visage et en plein cœur? Un silence persistant, conclut Joseph Attab Pacha, apporterait la preuve que dans la démocratie française dite celle des droits de l'homme, tous les hommes ne sont pas libres et égaux en droit. Voilà, effectivement, c'est un petit peu cette différence qui est faite entre les Français. Devient un petit peu insupportable.
Oui, mais
ces gens-là ont le défaut d'être français,
s'agissant de
souche, blanc, Oui.
S'agissant de Sarkozy, on peut rappeler aussi que devant une autre stèle à Marignan, une stèle identique des anciens de l'Algérie française qui voulaient donc s'incliner devant leur mort, il nous a envoyé les CRS pour nous empêcher d'inaugurer notre stèle. À la suite de quoi, une femme parmi nos amis a eu la hanche fracturée par ces gens-là. C'est comme ça que nous, on nous laisse honorer nos morts.
Et les deux stèles sont érigées par l'ADIMAD. Hein,
dans... Je sais, je suis l'un des administrateurs de l'ADIMAD et je connais bien vos bureaux que vous nous avez prêtés avec notre président. Je me suis assis derrière votre bureau et je connais bien vos locaux et je vous remercie.
Voilà, donc je pense que les électeurs de Sarkozy sont contents de prendre tout ça.
Attention urgent, à propos du procès de Simoneau, plusieurs messages nous apprennent que, on raconte partout sur Internet, au Salon Beige, que ce procès est déplacé et reporté. Donc vous n'allez pas demain soutenir M. Simoneau.
Donc, ordre contre ordre, désordre, comme on dit dans l'armée. C'est bien.
C'est bien, ça prouve que nos auditeurs écoutent avec attention.
Alors, nous recevons maintenant M. Benoît Mancheron, éditeur de Via Romana, très belle maison d'édition, très très beau travail, et M. Argouache Jean-Paul Père. Ça marche pas, hein, comme ça. Hein.
Non, ça fait drôle.
Ça fait drôle, hein. De la Sainte-Croix de Riomont, auteur du livre Riomont, Passion et Résurrection, préfacé, on ne se mouche pas du coude, par Jean Raspail. Hein, c'est quand même pas mal, préfacé par Jean Raspail. Hein. Vous avez des bonnes relations, vous. Hein.
J'ai réussi à le faire venir à Riomont un feu de la Saint-Jean. C'est pour ça que je le connaissais un petit peu. Mais c'est vrai qu'il n'est pas resté au feu de camp. Il est reparti, il est resté au début du feu de camp parce qu'il est quand même assez âgé.
Oh, et il est âgé, il paye plein de jeunesse. Vous rigolez.
Sa jeunesse, d'accord.
Magnifique, genre. Non,
il a un cœur toujours jeune.
Non, il est un peu occupé peut-être. Puis
oui, c'est ça, voilà.
Alors, ce livre... On en a déjà parlé, mais c'était ce qu'on appelle un livre virtuel. Et puis, d'abord, ça a été un livre potentiel. Après, c'est devenu un livre virtuel. Après, c'est devenu un livre fantôme. Et maintenant, je l'ai dans les mains. Tenez, vous l'entendez ? Je tape dessus. Et il est très bien. Voilà. Alors, je me tourne vers Benoît Mancheron et je lui pose la question qui tue à l'éditeur. Pourquoi avez-vous décidé d'éditer ce livre ?
Oh.
Non, parce qu'un éditeur...
Eh bien, écoutez, tout simplement parce que vous m'en avez parlé d'abord et que j'ai pu rencontrer le père Argouache ensuite.
Vous connaissiez
je
pas
me contentais d'apercevoir en permanence. Je l'apercevais je l'ai aperçu très 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 longtemps avec le en compagnie du père Revet. Je l'apercevais régulièrement aux journées chouannes et ensuite de passage toujours très rapide, furetant je dirais presque, à la librairie rue du Petit Pont. Et bon, il est évident que lorsque le père Argouache, lorsque vous m'avez parlé, que le père Argouache me parlait de ce projet de livre, non pas de livre sur Riomont, mais plutôt de livre de livres de souvenirs en vrac, comme dirait Joubert.
C'est-à-dire que je connais le père Argouache depuis un certain nombre d'années maintenant. Hein. Et puis, je peux dire sans me vanter qu'on est un peu amis. Et alors, quand on bavardait, il me racontait toujours des histoires. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne les écrivez pas ? Il faut faire les Fioretti de Riomont. Faire des petites anecdotes courtes qui montrent la vie de ce village. Parce que c'était drôle, c'était émouvant, c'était passionnant, c'était troublant, c'était intéressant, il y avait des coïncidences, des mystères, des personnages, toute la matière pour faire un livre.
Mais ce sont des Fioretti avant tout de la vie du père Argouache. Oui. Mais il met une toute petite, il lève un tout petit peu le voile, mais sans l'ouvrir trop non plus. On sent bien qu'il est... Il est un petit peu tiraillé entre le désir de dire un petit peu, de donner quelques fioretti de sa propre existence, en même temps que le désir évidemment de revenir toujours à la grande odyssée de Riomont. Et on est un petit peu, on passe constamment de l'un à l'autre en lisant l'ouvrage,
mais ça montre
d'une manière
bien
très
que,
agréable.
Ouais, ça montre bien qu'il y a quand même une espèce d'identité au sens de la même nature. Il finit par être Riaumont et Riaumont finit par être lui. Ça, c'est,
oui, il y a une identification,
ouais, tout à fait.
Mais la vie du père Argouache, évidemment, celle du père Revet, elle transparaît à travers l'ouvrage, mais la vie du père Argouache est elle-même une vie fort intéressante, parce que tout à fait représentative, finalement, de l'itinéraire d'un jeune homme imperméable aux idéaux de 68.
Ah oui, ça, je crois qu'on peut dire ça.
Il commence très mal.
Il a failli être besoin, on peut le dire, puisqu'il est pas là. Enfin, il nous écoute pas.
Il commence dans l'armée, enfin, une famille.
Non, mais avant, déjà même, il est quasi blouson noir.
Oui.
Il a failli mal tourner, vous avez failli mal tourner, mon père, c'est vrai ou pas?
Ah oui,
vous n'avez jamais fait de prison quand même.
Comment?
Vous n'avez jamais fait de prison?
Non, j'aurais pu en faire.
Ouais. Mais votre père vous battait?
Il y a un péché aussi que vous m'avez reproché, c'est de vouloir être toute valeur. Ça,
ça
c'est un truc.
Mais ça, la Providence vous en a préservé. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il paraît qu'il était bon au football. Hein, on aurait pu avoir un footballeur qui s'appelait Argouache.
J'ai eu une attirance quand même naturelle pour tout ce qui n'est pas conforme.
Hein. Ouais.
C'était Zidane de l'époque, quoi.
Le père Zidane. Non, il paraît qu'il était bon, vraiment. Hein. Je sais pas, moi, je suis pas juge, parce que... Mais...
Un livre bourré d'anecdotes.
Alors, voilà.
Ça peut être le livre de plage de l'été.
Oui, ouais, moi, je crois. Non, mais c'est vrai, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec les...
C'est pas ennuyeux.
Voilà. J'allais dire, ça n'a rien à voir avec les bouquins qu'on fait d'habitude sur le sujet. Ça va certainement faire plaisir aux fontaines, tout ce que je dis, mais non. Les bouquins de
C'est pas un livre uniquement centré sur ce cookie, uniquement centré sur sur l'aventure de Riaumont. C'est un livre qui va un petit peu dans toutes les directions de la vie, évidemment. Partons toujours de la vie du père Argouache, mais en même temps, c'est l'occasion de dire mille choses sur la crise de l'Église, sur les passions du père Argouache. Parce que on sent bien que vous êtes habité par certaines passions. Multiformes.
Ah oui,
il y a un jeu de mots d'ailleurs sur le mot même de passion. Bon, Riaumont, passion et résurrection.
Résurrection.
Il paraît que vous aviez eu l'idée de mettre plutôt la passion, de pas mettre ce titre-là. Vous vouliez jouer sur le sens du mot passion, et ce qui correspondait d'ailleurs davantage finalement au contenu de l'ouvrage. Qui n'est pas seulement un livre sur
un chef.
Au départ, vous avez pensé à un livre du style plutôt de Don Camillo et Pépone, parce que vous m'avez fait acheter le livre, et j'ai lu les Fioretti, et en fait, c'est un autre livre que j'ai écrit.
Mais on
vous m'avez dit, c'est pas le.
Je serais de le vendre à Benoît.
C'est pas le livre que vous aviez projeté de faire. Et moi, j'ai fait parler mon cœur simplement, c'était un petit peu...
Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a toutes les facettes de votre personnage. Il y a le prêtre, le mystique, vrai. Le prêcheur, c'est vrai aussi, parce qu'il y a des moments où on sent une espèce de souffle, comme ça, de souffle d'évangélisateur. Enfin. Et puis, il y a quand même... Il y a de temps en temps le petit loupard qui sort le bout de l'oreille. Dès le premier chapitre, ça s'appelle « Attaque nocturne ». Alors, je ne vais pas raconter le contenu parce que ça serait dommage, mais c'est quand même assez rigolo, c'est assez inattendu. On peut le voir se friter avec un voleur dans le.
Et en pensant aux jeunes et aux enfants, j'ai voulu faire un livre aussi d'espérance parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma peau quand j'étais jeune, au sortir des parachutistes. Donc pour leur redonner aussi l'espérance. En leur redisant que Dieu a un plan d'amour sur leur âme et qu'il ne faut jamais désespérer. Et en même temps, c'est un livre de combat. Parce que face au totalitarisme, face à des fonctionnaires robotisés et haineux et méchants et même cruels et même sadiques, Riaumont a pu passer à travers le feu et même triompher. Alors qu'on a touché terre plusieurs fois.
Il y a un chapitre sur le totalitarisme qui n'est pas très démocratique. Hein.
Les juges ou les...
Oui.
Ouh là là, ça, c'est quelque chose. Ouais, sur les la façon dont l'administration fiscale, l'administration judiciaire s'est penché sur le sort de Riaumont, là vous allez voir, il faut lire ça, c'est vraiment frappant de voir à quel point la méchanceté vindicative, entêtée, blessante, humiliante, salope au sens vraiment profond du terme, s'est acharné contre ce village. Et tout ça pue le vieux franc-mac, mais alors, d'une façon... Il y a une histoire qui est racontée dans le bouquin, ils font quand même... On leur dit qu'il y a une baraque en construction sur le... Alors, Riaumont, il faut savoir, c'est un parc immense, il y a des maisons un peu partout, et tout. Et ils décident de construire une petite... comme une remise à outils, quoi, une petite baraque, de rien du tout. Et pendant qu'ils font les travaux, ils voient un hélicoptère qui passe, et le père dit ah, c'est bizarre, c'est pas normal, et qui se met en vol stationnaire, puis qui fout le camp. L'administration fiscale a envoyé un hélicoptère pour photographier la construction de la baraque. Ensuite, ils ont instrumenté une action pour construction sans permis, alors que comme il n'y avait pas de fondation, il n'y avait rien, il n'y avait pas de permis nécessaire, et ils ont obligé à détruire cette baraque. Qui était une baraque historique.
Ils ne sont pas obligés, mais on l'a fait parce que les sanctions étaient terribles. Et je fais paraître le document parce que il y a un Saint-Ange qui nous a amené le document avec les références. C'est assez extraordinaire parce que chaque fois qu'on allait être détruit, les prières de nos bienfaiteurs, de nos amis, les prières des enfants qui sont les plus pures et les plus belles, eh bien, ça a fait qu'il y a un service de renseignement céleste a toujours intervenu. Et à chaque fois, on a pu se tirer à quelques heures du coup le plus terrible. On a pu parer le coup.
Alors dans ce document, on voit, quand je disais que ça pue le vieux franc-mac, c'est tellement évident. Il y a un moment où ils décrivent les lieux et ils disent... Un bâtiment de construction dit église catholique. Dit église catholique. Ils en rasent, les gars. C'est pas une église, c'est pas catholique. Ils ne savent même pas ce que c'est, ils s'en foutent, mais dit église catholique. C'est vraiment le.
C'est le langage.
Ah, c'est
ce document est assez extraordinaire, d'ailleurs, parce qu'on retrouve tout. Parce que normalement, le trésor public ne s'occupe que des finances. Hein? Et là, ils veulent.
Ah oui, ils ont voulu charger la mule. Ouais.
Le procureur de la République, les écologistes, tout y passe. Et c'est une sorte de collectif qu'ils sont en train d'instaurer parce qu'ils ont déjà failli nous détruire par un collectif à Montrouge où il y avait un représentant de l'évêché, un représentant de la mairie, bien sûr, tous les spécialistes de la subversion et qui étaient là. Et c'est à la demande d'une commission parlementaire que plus ou moins se sont sentis habilités, ce collectif, à intervenir contre nous. Et donc c'est très curieux qu'à l'échelon national, ce tout petit Riaumont soit connu.
Oui, mais là on sent que c'est... Parce que ça les gratte, quoi. C'est une espèce de...
C'est le village d'Astérix qui résiste.
Ouais. D'ailleurs, il y a des figures. C'est... Travers ce livre, je trouve des portraits extraordinaires. Il y a des portraits d'enfants, bon, je pense à Eflamme de Pennanster, mais il y en a d'autres, enfin, d'enfants.
Ah, mais il y a d'autres personnages aussi. Je crois qu'on en a déjà touché un mot dans cette émission il y a quelques temps. C'est l'histoire de l'expert d'assurance, l'expert, qui vient, qui est fermé comme une porte de prison, cadenassé et tout. Et le père lui dit, vous voulez peut-être visiter, l'occuper.
C'était vraiment la dernière seconde, le coup de cœur, le miracle qu'on demandait au ciel.
Vous voulez jeter un œil sur l'église, sur la chapelle? Alors, il dit, oui, mais vraiment avec la gueule à l'envers, tu vois. Oui, votre église. Elle rentre et pof, elle tombe à genoux en larmes. Et en sortant, elle dit au père, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. C'est fabuleux, c'est un truc, c'est le pilier de Notre-Dame, c'est le cheval de Saint-Paul. Quoi. Et alors il y a des choses comme ça.
Il y a un
chapitre sur le feu.
C'est incroyable, alors vous commencez par une anecdote qui vient avec le feu qui frappe le père Revet, et puis on a l'impression que vous le retrouvez, enfin vous citez plusieurs autres anecdotes dans le temps et dans l'espace.
C'est vrai que chaque fois qu'il y a eu des incendies, on a compris que le diable voulait nous détruire par le feu, chaque fois... Et maintenant que j'écris, je sais pas combien d'incendies, j'en découvre de nouveaux incendies, remontent à la surface, d'autres incendies, mais je dis pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de cet autre incendie?
Et il y a un chapitre sur le Christ aux yeux brûlés.
Oui. Oui, très 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 beau.
Oui, c'est un calvaire une croix qui était dans une chapelle. La chapelle a été écroulée, il y a plus de toit. Il neigeait. Et un ami nous téléphonait régulièrement, venez chercher le Christ, venez chercher le Christ. Et un jour, n'y tenant plus, on est parti avec notre Land Rover, avec avec la vieille Marie-Jeanne, et on est parti chercher ce Christ immense qui se trouve maintenant dans notre chapelle. Et on a fait cette descente de croix, c'était très 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 émouvant. Et il y a quelqu'un qui est arrivé avec une petite lampe électrique et qui a dit « Qui est là ?» Et alors, j'ai fait le Christ et j'ai dit « C'est Jésus !» Et alors, il est resté avec sa lampe et sa lampe est tombée par terre, il est parti en courant. Il nous a laissé le temps de prendre ce Christ.
Ah oui, il y a aussi, vous racontez une scène qui est extraordinaire, c'est quand vous allez voir... comment elle s'appelle la le foyer de charité.
Ah oui, effectivement. Marthe Robin.
Marthe Robin.
Ah, Marthe Robin, oui.
Le coude. Marthe Robin est assistée par un vieux curé.
Oui, l'abbé Finet.
L'abbé Finet. C'est lui, il monte toute une espèce de mise en scène pour effrayer les gens.
Je sais pas si c'est pour effrayer.
Oh, bah, c'est évident.
Il y avait cette dynamo qui était sur cette lampe.
Il a une lampe à dynamo. Alors, quand il fait rentrer les gens dans la chambre de... où se trouve Marthe Robin. Et
d'abord, on arrive, on est dans le noir.
C'est dans le noir complet.
On est dans le noir.
Et puis lui, il tourne et on entend à ce moment-là un bruit. Alors, c'est très impressionnant dans le noir. On voit une petite ombre blanche recroquevillée sur un lit, comme ça. C'est Marthe Robin.
On la voit pas. On voit simplement les étincelles, d'abord.
Et puis, on voit après une petite voix. Et on entend bou, bou, bou. Et vous finissez par découvrir que c'est la manuelle de la dynamo de la loupiote. Il aurait pu acheter une pile quand même depuis le temps.
C'était terrifiant.
Mais il n'empêche qu'elle vous dit des choses qui sont, qui sont quand même profondes.
Oui, elle a prophétisé la fondation de Riomont.
Ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, c'est impressionnant. Oui, oui. Et un cahier photo. Alors ça, je me tourne vers l'éditeur. C'est un peu une folie d'éditeur, un cahier photo dans un bouquin, non?
Surtout un cahier de 16 pages.
Ouais.
De photos, la plupart
des photos
en couleur.
Ouais. Alors la première photo, quand même. Et dedans, un tout petit bambin en barboteuse, tout frisoté.
On voit le père à gauche pour la première fois, bébé.
C'est
beau comme un dieu.
J'essaye de vous reconnaître.
C'est pas une barboteuse, c'est une petite cape que j'ai.
Non, mais sous la cape, vous avez une barboteuse.
Ah bon?
Bah oui. Sable de l'homme, 1950, retour d'un raid dans les dunes. Il marchait à peine, il est déjà parti en raid. Montage de tente à Trèves en 57 avec mes deux frères, Yves-Marie et Philippe. C'est vous qui avez la petite bedaine, là? Allez, dedans, vous avez bien... Ah oui, oui, il y a un petit garçon.
C'est mon frère qui est colonel.
Ah, c'est votre frère qui est colonel. Ah bon, il est d'accord. C'est déjà une bedaine de général. Enfin, il y a des photos très mignonnes, très marrantes, et puis très belles aussi. Il y a des photos du père Revet. C'est vrai qu'il était impressionnant, hein. Il avait d'abord une tête de star de cinéma, il faut reconnaître.
Ah oui, oui.
Ou de grand ténor, ou, ouais. On l'aurait très bien imaginé à l'opéra, quoi. Avec, vraiment, beaucoup d'allure. Et puis, les photos historiques, le chalet, le fameux chalet.
Le petit chalet des débuts,
qui a brûlé. Le fameux... Alors, vous êtes arrivé à photographier le saut de l'ange. Alors, le saut de l'ange, c'est une autre anecdote qu'on ne va pas raconter, parce qu'on raconterait tout le bouquin si on se laissait aller. Il y a une très belle photo du... Mais lisez le saut de l'ange, parce que ça vaut quand même la peine. Une très belle photo du commandant Guillaume... qui était un peu un des parrains de...
Oui, qui était un des parrains, surtout du village breton, le Guerveur, avec Guerveur. Vous, pour acheter ce village abandonné, tout près de Lorient.
Et puis, il y a les scouts de Riomont ravivant la flamme sous l'Arc de Triomphe, avec le commandant Guillaume. Mmh. Ça a été un événement considérable aussi. On voit où est la chapelle, on voit... très 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 belle photo du père Hervé, célébrant en pleine montagne avec le clan général de Saunis.
Et alors on avait l'anniversaire du clan, les 20 ans du clan. Il y avait 50 routiers qui étaient là. C'était assez extraordinaire. Il y a eu 200 routiers et il y en a 50 qui étaient là et une quarantaine qui se sont excusés. C'était fabuleux. C'était la plupart en uniforme. C'était impressionnant de voir des garçons de 30 ans, 35 ans qui ont déjà 4, 5, 6 enfants en uniforme de Riomont avec leur culotte tyrolienne et venant comme autrefois. Le cœur qui bat et se recueillir sur la tombe du père Revet. C'est très impressionnant de voir que ça dure. et que ça porte du fruit.
C'est un livre profondément décalé. Moi, je
trouve. Ah oui, c'est vraiment
très décalé, c'est parce qu'on a l'impression d'être immergé dans les bon, dans les problèmes du temps, mais en même temps, bon, on voit des photos de tour en noir. Voilà. On a l'impression véritablement d'être dans un décor,
ouais.
Et je dirais un mental, un univers mental. Qui échappe complètement à nos contemporains. Je sais bien que par moment, je me dis, bon, derrière le côté anecdotique de votre ouvrage, qui bon, attirera et plaira beaucoup, vous faites passer des choses qu'on ne voit plus, qu'on ne sent plus, qu'on ne perçoit plus aujourd'hui.
C'est pour ça que c'est un livre extrêmement réconfortant, parce que ça existe quand même encore. C'est vraiment. Alors là, le village d'Astérix, c'est le môle de résistance. Oui. On se dit, si un jour ça peut être partout, on ira à Riomont. Là, c'est un endroit de grâce et de sauvegarde. Et c'est un lieu privilégié, parce que le chapitre que vous consacrez au curé des mines, oui. C'est étonnant de voir à quel point cette région a été, qui est maintenant à peu près totalement...
C'est terrible.
C'est un désert spirituel.
Il n'y a plus presque plus de prêtres.
Mais on voit bien qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça redémarre.
Non. D'ailleurs, et comme ils n'ont plus de messe, de requiem, et puisqu'il y a des laïcs qui font les enterrements, dernièrement, on a fait deux enterrements, et c'est fabuleux, parce que les gens, de nouveau, espèrent. Et ceux qui tiennent, ce sont les Polonais, justement. Il y a eu une messe d'enterrement par un prêtre polonais, et alors tout le monde voudrait être polonais pour pouvoir être enterré chrétiennement, parce que les Polonais assurent encore la messe. Alors on essaie, on téléphone en disant, mais oui, mais si je connaissais un Polonais qui était un de mes amis, est-ce que je peux pas faire enterrer mon père quand même, etc. Il y a une demande spirituelle incroyable. Et cette réforme a été appliquée de manière, je dirais, soviétique. Il y a eu un froid. Il y a vraiment, parce qu'on peut être pour la réforme, on peut être pour l'esprit du Concile Vatican II, pour un certain nombre de choses, mais en même temps, il y a eu principalement peut-être dans ces pays miniers, c'est vraiment épouvantable. Moi, je raconte que j'ai vu des prêtres mourir de chagrin.
Oui. On va raconter une très très belle histoire d'un prêtre qui était attendu chez des amis et qui ne vient pas, et on va le chercher. Bon, ben, il faut lire le livre, mais c'est une histoire qui est sur le...
C'est un saint, ce prêtre, ouais, il est mort.
Sur le plan symbolique, c'est extraordinaire,
oui.
Vraiment. Et il est mort, c'est les bras en croix, avant de sortir de chez lui, et sous le tableau noir sur lequel il avait écrit une phrase qui était extraordinairement prémonitoire.
Oui, il a écrit Tarsicius, et il est mort comme Saint Tarsicius avec le bon Dieu sur lui, parce qu'il partait pour porter l'Eucharistie à un malade, et puis il est mort comme cela. Et là, il y a un mystère de Dieu, parce que c'est lui qui avait ressuscité cette procession extraordinaire dans les mines, où tous les communistes des corons sortaient sur le pas de leur porte, où même les communistes collaient des photos, parce qu'on passait avec les scouts 15 jours avant, on leur donnait des photos, et certains mettaient des photos à leurs carreaux, et il avait ressuscité cette paroisse. Et alors pourquoi le bon Dieu l'a repris? Je suis persuadé que cette paroisse où il y a eu cette catastrophe de la mine, où 42 mineurs sont morts, je suis persuadé que cette paroisse deviendra une très très grande paroisse et qu'il y aura de nouveau un saint prêtre plus tard, parce que ces semences de chrétienté, tout ce qu'il a fait.
Voilà. Bon, je pense que...
Quand on a été souscripteur, on le reçoit quand, ce livre?
Il est parti. Donc, vous devriez le recevoir ces jours-ci. Et s'il y a un seul problème, s'il y avait un envoi qui était raté, n'hésitez pas à appeler le village d'enfants de Riomont, parce qu'on a eu 447 souscriptions. Et donc,
évidemment, je pense que je parlais avec le père Agouache tout à l'heure du service de presse d'un tel ouvrage, et je disais au père Agouache que il est évident que malheureusement, un tel livre, on ne le verra pas annoncé dans les colonnes du Pèlerin, de la Croix, de la Vie, de tous les organes pseudo-catholiques
institutionnels. Il ne faut pas désespérer.
Par contre, vous pourriez nous faire suivre un PDF de la première de couverture et de la quatrième de couverture. Et on peut le diffuser par Internet vite, oui. Et ça marche bien.
C'est vrai que c'est un substitut libératoire.
Mais alors, de souscription.
Qui le diffusera?
Moi, par exemple, je peux le diffuser au moins à 2000 personnes.
Ah oui,
ça. Et après, ça repart sur des sites, repart partout.
Ça s'appelle Riomont, Passion et Résurrection, du père Jean-Paul Argouache de la Sainte-Croix de Riomont, préfacé par Jean Raspail, c'est paru Via Romana.
Demandez-le à vos libraires.
Demandez-le à vos libraires. Alors, je vais même faire une chose. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un numéro d'ISBN là-dessus?
Ah oui.
Parce que les libraires vous disent, oh, mais on ne le trouve pas. Ben, si, vous avez, avec le numéro d'ISBN, vous allez le trouver sans peine et sans reproche, bien entendu. Alors, où il est ce numéro? Voilà. ISBN, c'est le numéro que le libraire tape sur son ordinateur et comme ça, il ne peut pas dire qu'il ne trouve pas le bouquin. Donc, soyez gentil de le noter si vous voulez vous simplifier l'existence. 978-2-916-727-10-3. Voilà, c'est le numéro ISBN. Via Romana, c'est 5 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles. Courriel via.romana@yahoo.fr. Je l'ai, Yahoo.
Et vous avez dû remarquer qu'il existe une édition de luxe de l'ouvrage.
Et il existe une édition de luxe, dont à laquelle j'ai été offert deux. C'est comme ça qu'on dit, non?
À peu près.
À peu près.
Sur papier vergé.
Sur papier vergé, voilà. Et j'ai eu le numéro 4.
Un message pour M. Mancheron. Ce matin, vous avez reçu un auteur qui a dit que vous étiez l'éditeur de son livre. Pouvez-vous donner l'adresse de votre maison d'édition?
Serge de Becquet, je viens de le faire.
Voilà. Je ne savais pas, parce que j'en reviens.
5 rue du Maréchal Joffre.
Et qui était cet auteur?
C'était Christian Lajoigny. Nous avons parlé du père Bordaloux.
Ah oui, voilà. Intéressant. Intéressant, Bordaloux. Un peu long parfois, comme on le sait. Le lundi 23, au Gerveur, Locriste, Morbihan, chapelle Saint-Vincent sur la D769 entre Plouhet et Le Faouette, à 11h, Grand Messe Tridentine, précédé d'une procession, Méchoui, Olympiade, 21h, Grande Veillée du Centenaire, journée ouverte à tous les scouts de tradition, amis et anciens. On vous en reparlera, bien sûr.
Non, c'est organisé quand par... je vois arriver tous les courriers lecteurs, ouais. Je me demande si une fois de plus je ne vais pas devoir laisser.
Je vous donne la parole tout de suite.
Le Ribot, je suppose, dans le silence.
Je suppose que c'est de ce village néo-catholique de tradition dont vous parliez beaucoup en février 2006.
Voilà, c'est celui-là. C'est ça, exactement. Bien, alors maintenant, ayant donné toutes ces adresses, je me tourne vers Jean-Paul Leperlier, qui est venu nous parler la semaine dernière de notre ami Gérard Wedlich, prématurément disparu, et qui va devenir le spécialiste de la chronique.
Oui, c'est un peu désolant, notamment pour moi, qui ai écrit deux livres sur deux personnes qui sont devenues des amis et que j'ai beaucoup aimé.
Promettez-moi que vous n'écrirez jamais rien sur moi.
Ça serait pourtant tentant et extrêmement intéressant. Mais, et donc, et qui sont décédés à 10 jours d'intervalle, c'est quand même assez pénible.
Alors, donc, c'était Loïc Leribaud.
Voilà, c'était des gens exceptionnels l'un et l'autre.
Loïc Leribaud, l'inventeur ou le découvreur, je sais pas comment il faut dire, du G5. Et beaucoup d'auditeurs, beaucoup de lecteurs du Libre Journal m'ont demandé de vous redonner la parole pour que vous nous parliez de Loïc, comme vous l'avez si bien fait de Gérard la semaine dernière. Et donc, je vous laisse la parole.
Oui, on m'a même dit que quand je parlais de Gérard, on avait l'impression que j'étais sur le point de pleurer. Alors, j'étais en tout cas extrêmement ému, parce qu'il est vrai qu'on peut s'attacher extrêmement à... Je pense d'ailleurs au père Argouache, finalement, c'est un peu... À notre époque, ce que nous avons eu, Serge, c'est que nous avons rencontré, et je ne sais plus si ça existera aujourd'hui, des personnages absolument extraordinaires, quand même. Ça aurait été notre richesse. Et en tant que journaliste, de temps en temps, on tombe sur des gens qui existent, qui ont une personnalité, qui ont marqué leur époque, qui ont marché en dehors des chemins. Et je crois que Loïc Leribaud, qui était plutôt païen, d'ailleurs je le crains, était quand même quelqu'un de la même trempe. Gérard Wedlich, au contraire, rassurez-vous, dont j'ai parlé, je l'ai bien précisé, s'était approché de Dieu énormément dans ces derniers temps, m'emmenait visiter des chapelles en me disant, mais enfin Jean-Paul, tu ne ressens rien là maintenant, en ce moment, moi je ressens. Et donc voilà, mais dans le cas de Leribaud, c'est pas le cas, mais ça fait partie de ces gens, c'est vrai, de ces personnalités qui font que dans notre époque de décadence, on peut encore espérer un peu dans l'être humain. Leribaud, sa vie n'a pas été un pacte avec Dieu, on ne pourrait pas dire, mais ça a été très jeune un pacte avec la science. un petit peu un personnage faustien, si j'ose dire, ce qui ne va pas vous plaire énormément. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui aura avec beaucoup de générosité, guéri, sauvé énormément de gens. Il avait inventé un produit, le G5, qui est du silicium organique, et qui permet de reconstituer les cartilages abîmés par l'âge. Il faut savoir que toute personne est constituée d'énormément de silicium organique, qui est d'ailleurs la principale constitution de l'écorce terrestre. Voilà. C'est un élément essentiel dans notre corps, et avec les années, nous perdons notre silicium. Et dans la nature, on le rencontre seulement, même dans les plantes, parce qu'on pense que dans les plantes, c'est organique. Quand on le prend dans les plantes, on le retrouve à nouveau sous une forme non organique, sous une forme minérale. Et donc, il est extrêmement difficile de récupérer par la nourriture le silicium que l'on perd, et c'est un des phénomènes de vieillissement. Or, Loïc Le Ribou, tout à fait par hasard, un jour qu'il travaillait dans ses laboratoires, et j'y reviendrai dans un autre domaine, il avait une maladie aux deux mains, un psoriasis. Et l'une de ses mains se trouve guérie en quelque temps. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec cette main que je n'ai pas fait avec l'autre? Et il se rend compte qu'il avait tripoté une mixture qu'il avait fabriquée à partir de silicium. Alors il se dit, mais c'est inouï, je vais changer de main. Le scientifique, hein, bien sûr. Et alors il change de main, et la deuxième main est guérie comme la première. À ce moment-là, il commence à étudier ce phénomène. Mais il était occupé à autre chose, il avait créé la police scientifique, il travaillait là-dessus, donc il faisait ça de temps en temps, le soir. Et puis un beau jour, j'y reviendrai, il a les pires ennuis avec l'État suite à son laboratoire de police scientifique qui gênait beaucoup de personnes, et il se trouve à nouveau dans la vie n'ayant trop rien à faire, et il se dit, mais voilà, je vais reprendre cette histoire de silicium, et il va voir quelqu'un qui s'appelait Norbert Dufault, qui travaillait lui-même depuis des années sur le silicium, mais qui ne parvenait pas à le rendre absorbable par l'organisme, par voie buvable. Il avait fait un silicium qu'on pouvait se mettre en forme de pommade, mais qu'on ne pouvait pas boire. Alors, il a travaillé avec Norbert Dufault, et il finit par créer quelque chose d'extraordinaire. On peut donc avaler du silicium, recréer le silicium qu'on a perdu, et puis l'on peut également se masser aux endroits où on a d'énormes problèmes. Alors moi, comment est-ce que j'ai connu Loïc Le Ribou? J'ai connu avec la complicité de Serge de Beketch, qui m'a demandé pour Radio Courtoisie d'aller interviewer avec un matériel très compliqué qu'il m'a donné, dont je ne savais pas me servir, un espèce d'enregistreur d'origine japonaise, je suppose. Enfin, bon. Et je suis parti jusqu'à...
J'ai jamais été foutu de m'en servir moi-même.
Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en servir. Et je suis parti jusque dans le... Non pas en Irlande du Nord, mais dans le nord de l'Irlande, dans un endroit perdu qui s'appelle le County Mayo. Il faut savoir qu'en Irlande, quand vous dites « j'habite dans le County Mayo », les Irlandais disent « oh, le pauvre !» Parce qu'effectivement, vous avez des petits chemins qui ont la largeur d'une charrette, vous vous attendez à y croiser une bergère médiévale, en même temps c'est merveilleux, si vous voulez, voilà. Et je l'ai rencontré là-bas, dans le County Mayo, et il a commencé à me faire rencontrer des malades qu'il avait guéris sur place. Mais moi, qui est la culture de journaliste de minute que de Beckett, je connais bien, je suis naturellement sceptique. Alors, en premier temps, déjà, il se trouve que j'avais une terrible douleur dans le dos qui durait déjà depuis à cette époque une dizaine d'années. Il y a des gestes que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas poser quelque chose dans une voiture sans me redresser en un quart d'heure et avoir mal pendant 3 jours. Mais vraiment, j'étais dans un état et il n'y avait rien à faire. J'avais fait voir mon dos de toutes les façons, radio, tout ce qu'on voudra, rien. Oh, je dis à Le Ribou, écoutez mon petit vieux, commencez donc à cette discours. Voilà mon dos, faites-en quelque chose. Alors, il me met son produit. Je me couche sur une espèce d'endroit pendant que ça pénètre. Et puis le lendemain, j'ai écouté. J'ai deux fois plus mal qu'avant, votre produit c'est de la saloperie, croyez-moi, vous allez m'entendre sur Courtoisie. Il me dit, mais non, c'est parce que c'est en train d'agir. Je le quitte, je traverse une partie de l'Irlande en voiture, je descends à l'hôtel, et le soir, alors souvent moi dans les hôtels, comme tous les gens qui voyagent, j'oublie une brosse à dents, j'oublie quelque chose. La dernière fois j'oublie ma ceinture, je suis parti, je sais pas comment, enfin c'est invraisemblable, et là, je m'assois dans ma voiture et j'ai dit, bon Dieu, j'ai oublié, pardon, excusez-moi Père Argouache, j'ai honte. Bon voilà, vraiment, je dis, sacrebleu,
si vous préférez. Vous ferez une prière en pénitence, même si vous ne croyez pas.
Vous d'accord, je le ferai, je vous promets, vraiment je le ferai. Bon voilà, donc je dis, sacrebleu si vous préférez, et ou pas le sangbleu, j'ai oublié quelque chose. Effectivement, j'avais oublié que j'avais mal dans le dos. Pour la première fois, en m'asseyant dans ma voiture, après autant de kilomètres, je ne ressens rien. Je continue à me soigner avec son produit, et pendant un certain temps, je n'ai plus jamais rien ressenti. À tel point que ma femme, qui a 30 ans de moins que moi, quand il nous arrive de travailler la terre ensemble autour de notre maison, elle me dit, oh mon pauvre, comme j'ai mal dans le dos, moi je dis moi rien. Voilà. Là-dessus, étant très sceptique, je m'arrête quand même à l'île de Jersey, parce qu'il avait vécu à Jersey pendant un certain temps et soignait des gens. Et à l'île de Jersey, je me dis, bon, tu sais pas que t'es là, maintenant moi je vais commencer ma véritable enquête. Et je commence par rencontrer le chef de la police locale qui s'appelait Franck Ami, que malheureusement j'ai rencontré il y a quelques jours encore à l'enterrement de Loïc, qui est hélas décédé. Et là, ce Franck Ami me raconte, il me dit, écoutez, je vois arriver dans mon bureau un type qui me dit, bonjour, vous êtes bien le chef de la police, Franck Ami, donc était connétable, et un connétable là-bas, c'est un responsable de la police. Il dit, ben oui, évidemment. Ben écoutez, je viens vous voir, parce que figurez-vous que j'ai un mandat de recherche international contre moi. Franck Ami me raconte à moi, il me dit, vous rendez compte, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais je lui dis, enfin, avec mon pauvre ami, je suis la dernière personne qu'il faut rencontrer. Loïc de Hébo, qui est un être à la fois délicieux, d'une intelligence extraordinaire, mais en même temps naïf, et qui croit en l'être humain. Il n'est pas du tout. J'ai un mandat de recherche, effectivement, parce que je guéris des gens. J'ai pas du tout l'intention de me sauver comme un voleur. Je me livre à votre conscience. Faites ce que vous voulez. Moi, je me cacherai pas. J'espère que vous conduirez avec moi mieux qu'en France. Le chef de la police, il m'a dit, vous soignez quoi avec votre produit? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ben, je soigne très bien les articulations, les problèmes de dos. Malheureux, lui dit le chef de la police. Chaque fois que je sors de mon lit et qu'il fait humide et nous sommes sur une île et c'est tous les jours, je sors à quatre pattes. J'ai tout essayé pour me soigner. J'ai essayé la France, l'Angleterre, la Suisse. J'ai toujours aussi mal dans le dos. Alors écoutez-moi, je vais utiliser votre produit. L'île est toute petite. Si ça marche pas, vous pouvez commencer à courir. Et là-dessus, il me raconte, il me dit, je n'ai même pas terminé son premier bidon que j'ai bu, je me suis mis également la pommade, et cet homme n'a plus jamais, jamais eu mal dans le dos. Alors ce qui est extraordinaire, c'est quand Loïc Le Ribot a quitté Jersey pour s'installer en Irlande, qui est-ce qui, pour rendre service à ses concitoyens, a été distributeur des produits Le Ribot? Eh bien, c'est Franck Ami, responsable de la police locale, qui distribuait les produits Le Ribot dans l'île de Jersey. Donc, c'est vous dire, il y a des gens comme ce Le Ribot qui ont des histoires extraordinaires tout au long du livre que je viens d'écrire sur lui, puisque j'ai écrit un livre qui va paraître prochainement. Mais je m'excusais parfois en disant, écoutez, à mes lecteurs, excusez-moi, je suis bien obligé de vous dire la vérité, je sais bien que vous aurez du mal à me croire. Et sa vie est faite d'histoires aussi extraordinaires que celle-là. Maintenant, il y a deux vies dans la vie de Le Ribot. Et la première partie de sa vie, j'ai terminé par l'essentiel, parce que tout le monde le connaît, bien sûr, c'est par ça que vous avez commencé, Serge. Tout le monde le connaît par ce G5 qui a des résultats vraiment extraordinaires, donc j'en témoigne, des milliers de personnes en ont témoigné. J'avais aujourd'hui au téléphone les gens qui en Espagne font le G5 et qui me disaient, mais jusqu'au Mexique, partout dans le monde entier, les gens l'utilisent parce que ça marche et qu'on en parle et que les gens le conseil à leurs voisins, etc. Et ça marche. Voilà. Or, auparavant, cet homme, excusez-moi, Pierre Argouache, quand vous faites des gestes comme ça, comme j'ai un très faible moyen de concentration, vous me déconcentrez. Voilà.
Je vous demande pardon.
Ah, bon, écoutez, alors, je vous ferai aussi une petite prière de l'autre côté tout à l'heure. Voilà. Bon, très bien. Alors, je reprends l'histoire de Le Ribot. Alors, c'est quelqu'un qui, je reprends le début de sa vie, qui, tout jeune, trouve dans une ancienne abbaye où était installé le lycée de Meaux, par hasard, un squelette. Alors, avec beaucoup de respect, il emmène ce squelette à la maison, et puis il s'interroge beaucoup là-dessus, et il commence à s'intéresser donc au squelette et à ce qu'on trouve dans la terre. Ses parents, qui sont quand même ennuyés de voir des ossements envahir sa chambre, comment faire pour qu'il s'intéresse à des choses moins importantes? Tiens, ben c'est bien, on va lui offrir un microscope. Moyennant quoi, et il a commencé à remplacer les squelettes, ce qui est comme gênant dans une maison quand un gamin vous amène des squelettes dans sa chambre à coucher, ben par des mouches, par des poils, par les poils du chien, etc. Et puis petit à petit, il est parti à s'intéresser à tout un domaine scientifique. Il a ensuite travaillé sur les grains de sable. Il a créé très jeune une nouvelle science qui n'existait pas, qui s'appelle l'exoscopie des quartz. Et il est devenu très jeune le seul au monde. Il faut dire que c'était un spécialiste du microscope à balayage électronique qu'on appelle le MEB. Vous savez, le matériel est assez compliqué en fait. Et c'est un petit peu comme les pianistes. Vous avez des gens qui ne savent pas se servir de leur piano, qui seront des petits pianistes de bar, et vous avez des scientifiques qui pour qui leur piano est un Steinway, qui vont faire des merveilles. Et lui, il était au monde le meilleur spécialiste du microscope à balayage électronique, ce qui lui permettait d'être également la seule personne au monde qui pouvait vous prendre un grain de sable et vous dire, quel que soit l'endroit sur la planète, non seulement il vient de tel endroit, mais il est dans telle partie du fleuve, dans un virage. Les Américains ont voulu le tester. et lui ont dit, écoutez, voilà, monsieur Le Ribourg, votre histoire nous étonne un peu, nous allons vous envoyer des échantillons de sable de toutes les régions des États-Unis. Et on lui envoie un certain nombre d'échantillons. Ben, il dit, ça c'est un endroit de Californie, dans un fleuve à tel endroit, celui-là c'est le nord des États-Unis, etc. Et il arrive au dernier échantillon, et il dit, mais alors là, je ne comprends pas, parce que si j'applique ma théorie, je ne le vois pas venir des États-Unis. Je le vois venir du Liban, dans la plaine de la Bekaa, et en plus ce grain de sable aurait subi une forte déflagration. Eh bien, les Américains avaient essayé de le piéger. C'est un grain de sable qui venait de prélèvements qui avaient été faits après un attentat au Liban, et il était parvenu à le découvrir tout seul, à des kilomètres de là. Ce qui vous donne une idée de l'aspect extraordinaire de cet homme-là. Alors, il commence à travailler avec les services secrets français, avec la DST, et ensuite il travaille avec la police, avec la gendarmerie. Mais au fur et à mesure qu'il monte dans cette efficacité, donc il crée un laboratoire qui s'appelle le CARM, qui sera le premier laboratoire de police scientifique, qui va obliger les laboratoires d'État à essayer de se hisser à son niveau et qui n'y parviennent pas, dont des jalousies extraordinaires contre lui au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que pour la première fois, la gendarmerie avait des résultats qui dépassaient les résultats de la police. L'autre aspect des choses, c'est qu'il parvient à être de plus en plus au courant de secrets d'État, d'entrer dans la zone d'ombre de l'État. Or, c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire. C'est quelqu'un que l'État ne contrôle pas. Il va donc créer contre lui des haines. Et un beau jour, l'État va décider d'interrompre les commandes, de ne plus payer. Il est en faillite. À ce moment-là, la gendarmerie lui rachète pour l'équivalent d'à peu près de l'époque de 22 millions de centimes un laboratoire dont le moindre microscope à balayage électronique valait près de 2 millions, voyez. Il est ruiné, spolié. Il avait déposé les brevets, l'État copie ses brevets. Il attaque le ministère de l'Intérieur et on lui dit, mais attendez, votre histoire c'est qu'une piqûre de mouche sur le dos d'un éléphant, attaquer le ministère de l'Intérieur, et voilà. Donc c'est quelqu'un qui aura toute sa vie été en butte d'une part à l'État de cette manière, et puis d'autre en tant qu'ayant gêné l'État par la police scientifique, et puis qui aura été aussi en butte à l'État lorsque il aura monté contre lui le ministère de la Santé avec son produit que personne n'a jamais voulu tester officiellement. Alors on l'a mis en prison à cause de ce produit qu'il a créé, alors qu'il disait à l'État, mais attendez, j'ai tant de malades guéris. Alors Dufaux avant lui il l'avait dit, Le Ribot le dit à son tour, j'ai tant de malades guéris, j'ai combien de temps de vous?
5 minutes.
5 minutes, bon, j'ai tant de malades guéris, testez ce que j'ai fait. On n'a jamais voulu tester son produit officiellement, mais on l'a pourtant mis en prison pour exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire en réalité, comme beaucoup d'autres, exercice illégal de la guérison. Voilà, ça a aussi servi à le faire taire, parce que dans certaines affaires, il a vraiment attaqué très fort
l'affaire Chenin,
l'État français.
Et l'affaire des têtes.
Il y a eu l'affaire des têtes, ou pour vous dénuder l'affaire des têtes, pour ceux qui ne savent pas, il y a des exercices de tir de la marine française, de l'OTAN, etc., au large de Toulon. Et puis brusquement, au milieu de la ville, une maison explose. Alors on dit, c'est le gaz. Seulement le gaz, lui, il ne veut pas admettre. Non, c'est pas nous. Et finalement, Le Ribot arrive à prouver qu'il y a du titane et qu'on ne trouve ce titane que dans certaines armes militaires, etc. Il arrive à prouver et quelque chose que l'État ne voulait absolument pas prouver. Alors on étouffe, on fait ce qu'on peut et le seul adversaire, c'est Le Ribot. Il y a un sous-marin, exactement comme ce qui s'est passé récemment avec le Bugalette Braise, longtemps avant l'histoire de la Jonque, exactement la même chose dont des journalistes ont d'ailleurs oublié de parler. Ils auraient dû rapporter les deux affaires. Le Ribot va encore découvrir que là, il y avait du titane qu'on trouve dans la peinture des sous-marins etc. Et il y a surtout la terrible affaire Chenal, dans laquelle il peut prouver que l'armée française avait le triste record d'avoir dans ses rangs le plus grand tueur, le malade sexuel en série de l'histoire sans doute, à qui on confiait des jeunes appelés aux gardes à vous qui ne pouvaient pas se défendre, qui les prenait en stop, qui les tuait dans d'horribles circonstances, qui a tué on ne sait combien d'autostoppeurs également. Et c'est là que, en quelque sorte, le Ribot a été poursuivi par cette affaire Chenal. Parce que lorsqu'il se croit réfugié, tout est terminé, tranquille en Irlande, il découvre qu'une de ses voisines est Madame O'Keeffe, la mort de Trevor O'Keeffe, l'une des victimes de Chenal, qui vient le voir, et l'affaire est relancée.
Et à nouveau, le Ribou est en première ligne, et c'est comme ça que quelques temps après, il se fera à nouveau arrêter. J'ai été l'attendre à sa sortie de prison, voilà. Bon, maintenant, comme j'ai peu de minutes, je vais quand même passer à quelque chose d'essentiel. Je vais quand même donner, ne fût-ce que pour épargner les gens de Radio Courtoisie, qui me détachent chaque fois que vous parlez de ce genre de choses. Nous sommes assaillis de coups de téléphone, voilà. Alors, le livre que j'ai écrit déjà sur le sujet, et qu'on peut d'ores et déjà commander à l'éditeur, qui paraîtra dans quelques semaines, s'appelle Loïc le Ribou, itinéraire d'un scientifique réprouvé, et on le trouvera donc aux éditions Très Daniel, au 01 43 36 41 05. Là, on vous dira le prix qui n'est pas encore établi parce que le livre est en fabrication, mais voilà. Alors, édition Guy Très Daniel, 19 rue Saint-Séverin, 01 43 36 41 05, 01 43 36 41 05. Maintenant.
Je suis pas, moi, donc les auditeurs non plus.
01 43 36.
Itinéraire
d'un scientifique réprouvé. Voilà, livre qu'on le trouve chez l'éditeur Guy Très Daniel, que l'on peut joindre au 01 43 36 41 05. Et l'adresse est 19 rue Saint-Séverin. Maintenant, le silicium organique pour lequel le téléphone va exploser. Alors, on vous répond en français là-bas. Il est fabriqué en Espagne par Silicium Espana. Je répète, Silicium Espana. C'est le 0034 902 36 24 22. 0034 902 36 24 22. Pour tout renseignement, pour éviter encore d'encombrer Radio Courtoisie, le site web est www.siliciumlab, en un seul mot, siliciumlab.com.
Voilà, on rappellera tout ça, je rappellerai tout ça dans le libre journal pour les lecteurs et abonnés.
Au secrétariat demain matin.
Et au secrétariat, on communiquera ça. Merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir évoqué.
J'espère qu'on ne me dira pas que j'étais sur le point de pleurer, mais j'étais quand même très ému parce que c'était un être extraordinaire.
Ouais.
Je peux rappeler, le père Arouache dédicacera oui. Riomont, Passion et Résurrection, vendredi prochain, 22 juin, de 14h30 à 17h30, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont.
Merci beaucoup, merci à tous, merci aux auditeurs de nous avoir suivis, pour ceux qui nous ont suivis, tant pis pour les autres qui auront manqué le meilleur. Ah, dans 15 jours, sauf erreur de ma part, mais je ne m'engage plus, c'est une promesse gasconne, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 juin 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Radio Courtoisie.